Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go, and destination unknown. I don't care where the motor stops, cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh, I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now, I'm in it. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh, I want it, let's go. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here.
J'aime bien cette chanson, je la trouve entraînante. Et guillette. Cincinnati. Pas où c'est ça. Cincinnati, ça sonne... Espagne, Portugal. Sans doute. Je pense, hein. Comment ça va? Premier stream parisien depuis... Wouhou! Ah, États-Unis. Ah, c'est marrant. Ouais, j'aurais plutôt vu Espagne, Portugal, moi. Merci beaucoup, Usucapion, pour l'info. Cincinnati, ouais. Premier stream parisien depuis un mois, on l'a streamé tous les jours des vacances en Corse au mois de juillet. Quelle chance d'avoir passé ce mois de juillet en Corse, c'était vraiment un bonheur. Donc hier on a fait un petit stream de resetup du setup, voilà, et on a bien rigolé. Vous avez vu que tranquillement, l'espace d'une heure et demie, tout en discutant, en disant des bêtises, en naviguant dans ce petit studio parisien qui est le mien, bah, on a tout réinstallé proprement, sans erreur. Les trous où on met des câbles, de câblage, de tout ça, impropre. D'ailleurs, vérification ce matin, est-ce que l'image est ok? Pas de drapeau parisien? Non, parce que je suis là tout le temps. C'est ma tanière. L'image ok. Le son très important, le son, j'ai vérifié. Tout semble plutôt bien paramétré. Je pense que c'est assez fort, sans être trop fort. La tanière du lion. Le cadrage a changé. Ah bah oui, forcément. La caméra, le pied, tout ça, c'est parti encore. Ça revient, faut tout réinstaller. On n'est pas au millimètre, on n'est pas au micron. J'ai bien dit micron et pas Macron, je vous connais. Voilà. Donc le cadre a changé, ouais. La coupe a changé aussi. La coupe a changé. Et encore, là, c'est long, là. Là, c'est long. Là, ça va couper, là. Là, c'est un peu long, là. Là, on est sur... c'est en ces temps de disette budgétaire, au niveau national et télévisuel, on se met à l'unisson, on se met au diapason, voilà, et on coupe, hein, on coupe. Donc là, c'est là on est en mode hippie, on est en mode beatnik, on est un peu en mode laisser aller, on va mettre un coup de tondeuse là-dessus, dans les prochains jours. Hein, voilà, donc ça, c'est le nouveau stylisme capillaire. Voilà. Et puis, la lumière est fluctuante. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière, la caméra n'aime pas ça. Il y a trop de lumière, pas assez de lumière, du coup il fait ses petits calculs. Il faudrait que je fasse un réglage de la caméra pour lui dire d'arrêter de stresser comme ça en vrai. Mais c'est pas très grave ça. Ça repousse, les cheveux repoussent exactement, ouais. Mais on va couper ça. Et puis, j'ai ces nouvelles lunettes depuis le mois de juin avec mon amoureuse. On s'est dit que ça faisait bien longtemps que j'avais ces lunettes. Donc on allait se faire des lunettes, voilà. Puis je les mettais pas trop jusque là. Et ce matin, au moment où j'allais mettre mes lentilles, Je suis une taupe. Hein. Depuis ma tendre enfance, je ne vois rien. Là, je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes là? Je vois une tache noire, là, ça doit être là. Donc, je ne vois rien. Je vois, là, alors là, attends. Là, bon, parce qu'en plus, ma réglage, tu deviens un stigmate aussi. Donc là, je vois flou. Là, c'est flou. Là, c'est net, là. Là, c'est net. Vous êtes toujours... Non, vous êtes là. Là, c'est net. Là, c'est flou. Là, c'est net. Là, c'est flou. Là, c'est flou. Là, c'est net. Là, c'est flou. Et puis, plus ça va là, plus c'est flou. Bah, depuis toujours, hein, je ne vois rien. Ça explique peut-être des trucs sur certains jeux compétitifs, type FPS, je sais pas. Voilà. Donc, j'ai des lentilles, je triche depuis... J'avais 12 ans quand j'ai mis mes premières lentilles. Je crois que j'avais 7 ans, 6-7 ans quand j'ai mis mes premières lunettes. Voilà, les lentilles à l'époque c'était quasiment des trucs, des culs de bouteille en verre que vous posiez sur les yeux, hein. C'était une dinguerie, tu mettais ça une heure, t'avais les yeux comme un lapin sous myxomatose. Et pourquoi je raconte ça? Ah oui, pourquoi je dis ça? Mais bref, je vois rien quoi, donc j'ai des lunettes. Ah, vous étiez là en fait, ok. Ah, c'est presque le contraire de moi, juste votre zone de flou est plus grande que ma zone de net. Ah, la chance, Emma, t'as des bons yeux alors. Ça va être horrible? Ah non, c'est pas horrible. C'est poétique. Si tu as une vision de myope, c'est une vision impressionniste, pour ceux qui aiment la peinture. Il n'y a pas de contour net, tout est flou, tout est doux. Voilà. Tout n'est que luxe, calme et volupté, dirait le poète. Voilà. Les couleurs c'est fondu, c'est fondu sur fondu, fondu. Voilà, on est sur des aplats impressionnistes. C'est très beau. Voilà. C'est pas très pratique, mais c'est plutôt joli. Demandez au myope, c'est plutôt joli une vue de myope. Hein, pas mal le fond vert pour faire semblant d'être rentré de Corse. Nous sachons, Minos, nous sachons. Pourquoi tu fais pas l'opération? Oh non, bah non. Montre tes muscles. C'est bon, c'est fait. Oh non, j'ai pas envie, j'aime bien les lentilles, les lunettes, ça me dérange pas en vrai. Non. Et puis c'est trop tard, à mon âge avancé. Je serais jeune, j'aurais 20 ans, ou je me ferais opérer. Ça, je serais tranquille 30 ans avant que la vision se détériore à nouveau du côté plutôt astigmatie, je pense. La vision de près. Mais non. Je serais jeune, je me ferais opérer. Mais là, non, je suis bien. Fondu. Non, pas fondu fromage, hein. Fondu couleur. Ça revient en vieillissant, il paraît. Alors, qu'est-ce qui revient en vieillissant? Attends. Là, je sais pas où il est là. Tu veux dire que la myopie se corrige en vieillissant? Bah, moi, La stigmatie s'est rajoutée, c'est-à-dire je ne voyais rien de loin, je ne vois plus rien de près maintenant. Ah, c'est pas, ah oui, c'est la presbytie d'ailleurs plutôt. Ah oui, c'est plutôt la presbytie, t'as raison, presbyte. Eh oui, je crois que c'est ça, je crois que je suis presbyte. Je suis myope et presbyte. Ouais. Comment ça, titre? Myope? Je vois pas, je vois pas. Si on se fait opérer trop tard, on perd beaucoup en vision de nuit avec un risque d'éblouissement. Oh bah je vois déjà rien moi la nuit. C'est encore pire. À défaut d'être casse-couille. Je vois pas le rapport presbyte, casse-couille, je vois pas. Mais t'es toujours jeune, mon grand-père, feu mon grand-père me disait à l'Astère, me disait qu'on n'est vieux qu'à partir de 60 ans. Il me reste quoi? Donc il me reste 40 ans à peu près alors. Je fais le calcul dans ma tête. Il me reste quoi? 40 ans de jeunesse. Ça c'est bien ça. Ça tranquille alors. Je suis myope et astigmate aussi, me dit Emma. Je vois tellement mal que petit, j'étais persuadé de finir aveugle avant 20 ans. Ouais, mais bon. Oh, ça va en vrai. Hein. Ouais, je suis large. Je large au niveau de l'âge. Hein. Merci. Putain, j'avais pas vu. Bah, ça c'est la vue ça. Merci les releases pour le Prime. J'avais pas vu. Merci pour ton. Est-ce que tu. J'allais dire, tu es la première ou tu es le premier à sub. Non, il y a Yendo. Il y a Yendo qui a pris un deuxième mois d'abonnement. Merci Yendo Junior. Merci Brandy O'Dog. J'avais pas vu. Brandy O'Dog 53. 40, 40, 42 mois d'abonnement, mon Dieu! Premier stream, sub de ce matin. Sam n'est pas vu, il a 250 ans. C'est un autre terme qu'on emploie. Ok, Tom Tom. On m'a toujours dit que la myopie s'annulait avec la presbytie, c'est pour ça que je ne comptais pas faire l'opération. Alors, peut-être, chez des gens. Moi, je suis myope et presbyte, et ma presbytie n'a pas annulé ma myopie. Je suis toujours aussi myope et je suis presbyte. Let's go. Bon, après, pour le reste, je suis une machine, hein, je suis limite un cyborg. Hein. Au niveau des jambes, ça fonctionne. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Au niveau des jambes, c'est quasiment des. C'est bionique. Hein. Les bras refonctionnent. J'ai une espèce de grosse tendinite à l'épaule pendant genre quasiment un an, bah elle est partie. Les bras, voilà. Machine. Le cœur, ça pompe. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, ça, c'est les sports d'endurance pendant 30 ans. Ça, c'est increvable, ça. On s'est un peu asséché ces derniers mois. On a arrêté le sucre, on a repris le sport. J'ai des yeps, c'est folie. J'ai un petit boule incroyable. J'ai trouvé un nouveau stylisme capillaire. Pardon, j'ai eu dentifrice sur mon short. Je me lave les dents en plus. Quasiment parfait, quoi. Je suis au top. Merci Flobiche pour le soutien. Mon yep. Non, ça c'est sur mon OnlyFans. Faut payer. Point d'exclamation OF. Bim! Point d'exclamation OF. Ici, on cherche des sources de revenus alternatives. Hein. Vu qu'on a levé le pied. Hop, le yep sur la télé. Donc, pour l'exclamation OF, OnlyFan, et là, t'as mes yep. Tu stream encore le soir? Pas trop en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis crevé. Peut-être parce que je me lève tôt le matin pour les revues de presse. Ah, ça va reprendre. Mais aussi parce qu'il y a les enfants à la maison en ce moment, je vais en profiter. C'est le bonheur, c'est la famille. Donc, là, ils partent mardi. Donc, je pense que les streams du soir vont reprendre à partir de mardi. Mais le problème, c'est que. Les chevilles, ça va? Ouais, les chevilles sont pas mal. Blurry, ouais. Les chevilles, comme tout le reste. On est. Les chevilles, bon, comme le reste du body, on est sur du 10, du 17. 17 sur 10, à peu près. Ça va. Et donc, oui, on va. Le problème, c'est que à se lever tôt le matin pour la revue de presse, eh ben, c'est compliqué de se coucher tard. Voilà, donc l'après-midi, j'ai souvent des rendez-vous de boulot. Souvent, ou toujours. Non, pas 7 sur 10, 17 sur 10. Non. Non, non, pas 7. Non, non. Ah non, pas 7 sur 10. 7 sur 10, c'est pas cool. Non, 17 sur 10. 1, 7 sur 10. Non, pas moins 7. 17 sur 10. Un peu au-dessus de la moyenne, quoi. Vous m'avez vu ou quoi? Vous m'avez vu ou quoi? Pas 7 sur 10, non. Beau gosse et modeste en plus, quel homme se s'amuse. Merci, Poney Ninja. Non, pas 1,7 sur 10. Non! 17, 1,7 collé. On en parle que j'ai 21 ans, je suis cassé. 21 ans, je suis cassé de partout, me dit Loufana. Mais on est tous cassés de partout. On est tous cassés de partout, t'inquiète. 71? Non, faut pas déconner. Non, pas 0,17 sur 10. Non, pas 1 sur 710. Non, 17 sur 10. Hein, pour pas dire 20, quoi. Hein? Non, j'ai pas les pieds collés. Et comme, selon l'expression consacrée... Attends, c'est, comment, qu'est-ce que j'ai dit comme connerie récemment? Mon temple est un corps. Les habitués auront la ref. Et qu'on a repris le sport. Et qu'on a supprimé le sucre de son alimentation. Et oui, c'est quoi ce liquide transparent? On est passé à la flotte. Ouais, ouais. Et ça boit de l'eau maintenant. Et ça boit de l'eau. Incroyable. Bientôt, il n'y en aura plus. C'est pour ça, il paraît. Enfin, de l'eau. Un liquide transparent, quoi. Ok. C'est pas mauvais, en fait, hein. Bonjour, perso, j'ai fait une lombalgie à 22 ans. Aïe. Et je me suis opéré des varices à 27, bientôt l'arthrose. Ça fait check in the box, t'es solide, ça m'a fait rire. On est tous là, on est tous là. Même pas un petit café? Non, j'ai bu un Red Bull Light en me levant. J'ai mis le café. C'est de la sénoise, c'est de la sénoise. Merci, Sweezy Off. À chaque fois que je vois un sub de Sweezy Off, c'est quand même le 11e. Merci. Je pense que c'est Squeezie qui sub cette chaîne. Je fais waouh! La reconnaissance. Jamais. Pas un sub! Merci Flobish pour le Prime, merci. Sans boule, bac de vacances, je vois qu'il est revenu de Corse, mais sans boule à zéro finalement, ou pas fini le process. Je re-rase demain ou après-demain. J'ai dit à mon amoureuse que j'essaie de convaincre de la pertinence de ce nouveau stylisme capillaire. Tu vois, finalement, tu t'es habitué, c'est pas mal, les cheveux courts comme ça. Elle me dit, ouais, mais là, c'est un peu repoussé, c'est mieux, quoi. T'inquiète, on va remettre un gros coup de tondeuse là-dessus. Je fais des... Pourquoi je veux raser? Non, je fais des expériences. Je fais des expériences, je me prépare un peu à la cadvasse totale. Et donc, je veux voir quelle tête j'ai en ayant les cheveux très très courts. Et puis, je m'adapte aussi un petit peu au contexte budgétaire. La France est endettée, il y a plus de sous. La rigueur, donc rigueur capillaire aussi. France Télévisions, il n'y a plus de thunes non plus. Tu es obligé de faire des émissions le week-end uniquement. Donc, c'est une forme de solidarité aussi avec les difficultés financières du groupe. Raser, tatouage sur le crâne. Alors le tatouage, on y pense, je suis en train de réfléchir très très fort. Vous savez que l'un des donation goals du The Event, auquel j'ai la chance de participer à nouveau cette année, sera de me faire... Hey French Yu-Gi-Oh! Te voilà toi! Mais dis-donc mon French Yu, t'étais où? Ça fait longtemps qu'on t'ai pas vu. Tu viens plus aux soirées? Dis-donc. French Yu-Gi-Oh! Tu viens plus aux soirées toi? Donc, mais ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je songe beaucoup à ce tatouage de Nation Goal, voilà. Donc là, je commence à avoir une idée, voilà. Je pense que je vais rester sur les dragons, puisque j'ai 3 dragons, je vais me faire un 4e dragon, ce qui pourrait me donner envie de faire ensuite un 5e dragon. Et en fait, je pense que j'ai une idée hier soir ou ce matin, je sais plus, en pleine recherche d'emploi, mon Sam, et j'ai trouvé, me revoilà en pleine forme. Let's go, French Yu-Gi-Oh, le job. Ah, ça fait plaisir, ça. Est-ce qu'on peut féliciter French Yu-Gi-Oh, notre ami qui est de retour, avec un job, s'il vous plaît? Voilà, donc je vais me faire un 4e dragon. Et je vais, donc il faut que je trouve un bon tatoueur, une bonne tatoueuse sur Montpellier. On va prendre quelqu'un de local. Oh, merci pour les GG à French Yu-Gi-Oh. Ça fait plaisir. Vous êtes cool. D'ailleurs, Adjoint Félix emmène sa tatoueuse au The Event. Ah bon? Comment ça? Bah, tu m'en dis plus, Guylord. Guylord me dit Enjoy Phoenix, donc Marie emmène sa tatoueuse aux The Event. Je la connais, Marie. Ok. Ok, mais qu'est-ce qu'elle vient faire avec sa tatoueuse? Elle est tatouée, Marie? Elle est tatouée? Et en fait, donc, l'idée, c'est que moi, j'ai Dragon. Salut, Justin Banger, bienvenue. Elle va se faire un tatouage? Attends, un de ces donation goals, c'est de faire un tatouage en live au The Event? C'est... Il y a du vol d'idée, là. Quoi? C'est un de ces donation goals? Qu'est-ce que c'est que cette daube? Comment ça, ils tatouent au hasard les gens qui s'endorment pendant The Event? J'adore. C'est assez courant, en vrai? Attends, il y a déjà beaucoup de streamers qui sont fait tatouer en live au The Event? Ok, des noms, Remake. Remake me dit, c'est assez courant, en vrai. Ok. Remake, maintenant on veut des noms. Donne-nous le nom des streamers et des streameuses, très nombreux, hein, tu viens de dire, c'est assez courant en vrai, qui se sont fait tatouer en live aux The Event. Allez, on attend la réponse de Remake. Ici, pas de fake news. On veut des vraies infos. Sugar me dit, jamais fait aux The Event, je crois. Tiffen, tu es sur Montpellier ? Tiffen dit, je suis tatoué, je te le fais si tu veux. Choachin l'a fait ? Non mais en live aux The Event ? Choachin l'a fait par Flo Tattoo ? Ah, Remake n'a finalement... rétro-pédale. Oh là, je n'irai pas jusque-là, je parlais d'idées, j'ai l'impression d'entendre partout. Subitement, ça a rétro-pédale. Hein. On demande des noms, il n'y a plus personne. Les tatous, c'est trop classique. Bah, Zenko, j'ai l'impression que personne ne l'a fait pourtant. Shoah-Chin, c'était au The Event ? Il a déjà fait le The Event, Shoah-Chin ? Ouais, y a plus. C'est dès qu'on demande des précisions, il y a. C'était au The Event ? Quoi, comment ça, un tatou éphémère ? Non. Non, non, Shoah-Chin, c'est pas un... On parle de tatouage, on parle pas de truc balabar. Attendez, Shoah-Chin, quand vous dites Shoah-Chin, c'est fait un truc. Alors déjà, on me dit le bouseux l'a fait, mais après le The Event, pas en live, donc ok. Donc ça n'a pas été fait pendant le The Event. Donc le bouseux, on met de côté, il l'a pas fait. Et donc, attendez, on parle d'un vrai tatouage. Hein. Ok, donc Shoah-Chin l'a fait pendant le The Event. Il a fait quoi ? Il a fait quoi comme tatouage ? Ça m'intéresse. Tu vas te faire quoi ? Tu vas te faire tatouer quoi, Monsieur Chip ? Non, je vais me faire tatouer un énorme zizi sur le front. Soi-disant que tous les tatouages de Moment auraient été faits durant le The Event en live pendant qu'il était endormi. Fake news, puisque Moment ne dort jamais au The Event. Alors, on me dit, il s'est fait tatouer WSOW suite à un gain de 100K à une compétition sur Call of Duty. Attendez. La question que je pose depuis tout à l'heure, c'est est-ce qu'un streamer s'est fait streamer au The Event, pendant le The Event ? Et là, vous me parlez d'un tatouage pour sa victoire au World de Warzone. Attendez, il y a un truc qui ne va pas dans l'info. Désolé, hein, mais moi, j'aime bien les infos carrées, nettes, vérifiées. Alors, attendez. Il faut que je reformule la question ou pas ? Ah, mais il l'a fait pendant le The Event. Pas très clair votre histoire. Hein. Donc c'était pas un donation goal alors ? Si, quand même. J'appelle l'IFE pour check. Merci Futong, heureusement que t'es là. D'accord. J'ai une info, il semblerait qu'on pourrait faire des dons durant le The Event. À vérifier, Demon. Ok, ok. Donc, nous, on se fera un tatouage, on se fera pas... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait... Donc, il a fait... C'était quoi ? Il a fait 4 lettres, il a fait WSOW. Ok. Nous, on se fera un quatrième dragon, et plutôt d'avoir la tête du dragon sur le devant, comme je fais toujours, on va mettre la... Je pense qu'on va faire un petit dragon. Hein, ce sera mon plus petit dragon, parce qu'il faut pouvoir le faire aux The Event, donc on va dire un piercing ? Ah oh ouais, je vais me faire un piercing sur le Zizi. Bonne idée, Jaffa Tropico. En live, je pense que Twitch va aimer. Et donc, on fera la queue du dragon sur le haut de l'épaule, là, à droite ou à gauche. Voilà, je n'ai pas encore décidé. Et la tête derrière, là, dans le haut du dos. Voilà, c'est le principe. Bah, après, maintenant, il faut que je trouve un tatoueur ou une tatoueuse sur Montpellier. En dragon, quoi. Comme d'habitude, hein. Moi je fais que du dragon. Un des donation goals, hein. Il y en aura plein d'autres. Hein. Ça va durer combien de temps un tel tatouage ? Hein ? Il y a Kashiro qui... Ça va Kashiro ? T'as 47 mois d'abonnement, c'est ouf. Qui demande ça va durer combien de temps un tel tatouage ? C'est-à-dire ? J'aime beaucoup la blague de Yeligar. J'habite Montpellier, mais je ne suis pas tatoueur. Ça pourrait être une donation goal incroyable de me laisser te tatouer. J'adore cette idée. Ah, à faire, pardon, je comprenais pas. J'aurais même pas dépassé 3 heures, quoi. Parce que, bon, j'ai déjà fait des séances beaucoup plus longues d'une journée. Mais franchement, au bout de 3 heures, à partir de 3 heures, ça commence à énerver un petit peu, quoi. Ça picote. Et sur place, mine de rien, on sera engagé dans d'autres choses, hein, dans la collecte des dons, dans les échanges avec les autres participants, les échanges avec le chat, les autres donation goals. Salut, j'ai un pote qui est tatoueur sur Montpellier, il tatoue vraiment bien. Matou, tu peux m'envoyer un DM sur Twitch ou sur X, s'il te plaît, avec les infos sur ton ami? Voilà. Tiffen, j'aurais adoré venir, mais en plus, je suis déjà en convention en Belgique ce jour-là. On a prévu de setup les tablettes pour garder le Zeven pour que je tatoue d'ailleurs trop bien. Je trouve ça chiant où tout le monde fait des trucs. Choupignon, quand les streamers font des trucs ensemble, je trouve que c'est chiant. Ok. Bon, c'est l'un des donation goals, hein. N'oubliez pas que je réfléchis beaucoup en ce moment aussi à mon programme pour la présidentielle 2027, puisqu'on va remettre. Piranha, n'hésite pas à m'envoyer un message également sur ces super tatouages de Montpellier. Non, on s'est séparé, c'est chiant. Je comprends pas trop tes messages. Faut que tu fasses une phrase plus complète. Parce que... légitime obstruction, ça m'intéresse aussi. En plus, moi je me suis fait tatouer le hasard, voulu que je me suis fait tatouer que par des hommes pour l'instant. C'est quand même surréaliste. Que je me sois pas fait tatouer par une femme encore, quoi. Ça, pour changer. J'habite pas à Montpellier, je suis pas tatoueur, ça peut t'intéresser, me dit Dracognan. Salut Dracognan. Et donc, qu'est-ce que je disais, je sais plus. Oui, on songe très fort ici, en ce moment, le matin, la nuit, le jour, à son programme pour la présidentielle, puisqu'on va remettre le Donation Goal pour me présenter, que je me présente à la présidentielle 2027. Merci Vicky le King pour ton 23e mois d'abonnement, tu régales. Merci Rémi Leptic pour ton soutien. À 1 million. T'as trouvé quoi comme goal? Eh ben, ce sera la surprise, Arthurette. J'en ai plein! Il dit qu'il préfère quand les streamers font des trucs ensemble aux events plutôt chacun dans son coin. Mais bravo, Baptard, je n'avais pas compris, moi. Par contre, pour l'annonce de ta candidature officiellement, tu la feras aux events? Bien sûr! À condition qu'on atteigne les 1 million. À un moment, faut se tirer le doigt du cul. Hein. Merci, RenDNG, pour ce 31e mois d'abonnement. Merci, Ren. Merci Papo pour ton 18e mois. Oh, merci pour ton message. Ton message me fait chaud au cœur en vrai. Bon, ouais. 28 minutes. Peut-être falloir partir sur l'actu là. C'est bien de se papouiller, de se dire bonjour. L'hélicobit, à combien? L'hélicobit? Oh là là. Plus, hein. À 10 millions, je fais l'hélicobit. Bon, ma chaîne Twitch ferme, mais 10 millions pour les assos, en vrai, c'est beau. Hein. Après, je me lance sur TikTok. Où je me focus sur mon OnlyFans. Mais du coup, que tu veux quel type de dragon? Un petit dragon blanc aux yeux bleus, un drac au feu, un dragon vert avec cette boule de cristal? Oh, bah, je sais pas, on verra. Ça, c'est une discussion avec les tatoueurs, ça. Ça, moi, je viens avec l'idée. Et le tatoueur me dit, ok, moi, j'ai une idée. Et c'est un échange. Moi, j'aime beaucoup cet échange avec le tatoueur. Il y a le projet et après, il y a l'échange. C'est pas, tiens, il faut. Moi, je suis pas, tiens, il faut. Voilà, je te mets une photo pour faire ça, quoi. Et ah, vas-y, je lui dis, allez, on fait un dragon, qu'est-ce que tu me proposes, quoi? Souvent, le résultat n'était pas du tout ce que j'avais imaginé, d'ailleurs. J'aime bien. Merci, Matou. C'est noté. Ouais, on peut. Ouais. Ouais, obligé de partir sur Kick. Dragon blanc aux yeux bleus, c'est du Yu-Gi-Oh, ça, non? Hein? Ça te change les lunettes. T'aimes bien Nico Manga ou pas? C'est pour faire genre. Ah, c'est dans Naruto? Ah, non, pour moi c'était Yu-Gi-Oh! Plutôt. Toujours exclusivement les dragons, t'envisages autre chose? Non, moi je suis dragon. Bah. Au Ziamen, tu seras full Valorant, autre jeu? Oh, bah on fera d'autres jeux. Hein. On fera la revue de presse, on fera du Valo, on fera d'autres jeux. D'expérience, je sais que de toute façon tu peux pas trop beaucoup jouer. Hein. De par l'échange avec le chat, les merci à tous les dons, les échanges avec les autres streamers, les trucs collectifs, finalement, donc voilà, puis il y aura peut-être un jeu d'horreur, peut-être. Merci Mario de Pas Métal. Ou un petit tigre. Ah, un petit tigre. J'ai la ref, Tenry. Mais ça va pas trop changer par rapport au style des autres dragons si tu changes de tatoueur. Trois dragons, trois tatoueurs différents. Donc le zizi sur le front, c'est non. À 2 millions, je me fais un zizi sur le front. Du coup, je me retrouve à me présenter à la présidentielle 2027 et participer au débat avec les autres candidats avec un zizi sur le front. C'est un concept. C'est un concept. C'est un concept. Après tout, une fois qu'on est parti, pourquoi pas? Il faut absolument gagner au loto avant le 10e. Ah, je comprenais pas pourquoi vous disiez ça. Il y a l'euro million mardi à 181 millions, ok. Et les gens qui disaient, ah ouais, il y a un monde où il y a un viewer qui gagne l'euro million. Ah oui, dont on ok, le délire c'est un viewer gagne à l'euro million et du coup il met 1 million pour la présidentielle, il met 2 millions pour le Z sur le front et 10 millions pour l'hélicobite. Ah ouais, ok, oh merde. Ok. Ok, bah si c'est pour les assos, c'est bien. Hein. Ok, donc ça va, le plan de génie, ouais, ça va jouer à l'euro million là. Bon. Merci Nuke Nuke pour ton 23e mois. Un petit sommaire, le bande de beaux gosses, parce que je vous abandonne à midi 30. J'ai rendez-vous à la maison pour un. J'ai un technicien qui doit passer à la maison cet après-midi. Vous savez, les rendez-vous entre midi 30 et 18h. Pas de soucis, en général ils arrivent tôt. Et puis j'ai Joe qui doit passer à la maison aussi. Et puis je m'occupe un peu des enfants aussi cet après. Le zizi tatoué sur le front, même pour une association, je suis pas convaincu. Je vous rappelle que la personne qui nous dit ça dans le chat, le zizi tatoué sur le front, même pour une association, je suis pas convaincu, son pseudo c'est Moulbit. Hein, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité à un moment. Merci Néo pour ton 24e mois d'abonnement, 24 mois de bonheur. Alors là, un CSC. Exactement. Hein? Je dis ça, je dis rien. Et il est modo en plus. Et il est modo. On y va? Dis donc, Choupignon, faudrait voir être poli, hein. C'est quoi ce vocabulaire là? L'avantage du zizi sur le front, c'est que t'as pas vraiment besoin d'un bon tatoueur. Ah si, ça peut se soigner. T'as réduit la consommation de café, Sam? Ah ouais. Là, j'avais complètement arrêté pendant des mois. Et là, je fais un café par jour max. On n'est pas pris encore là. Je suis à la flotte là. Allez, sommaire. Ok, parce qu'on a plein de trucs. Hein. Faut une bonne résolution pour la veine. J'aime ces analyses techniques là. Hop, 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 Camille qui régale. Qui offre non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais cinq abonnements à la communauté. Ça y est, ça va nous sponsoriser du Holly? Ah non, non. Oh non. Qu'est-ce que je bois comme cochonnerie, moi? Je bois du Red Bull et du Coca. Voilà. Comme cochon steak. Et ils m'ont pas un centime de sponsoring. Hein. Incroyable. Ah si, j'avais fait un truc avec Coca une fois. Ah si, j'avais fait. Hey, Red Bull, vous faites quoi? Ah si, j'ai fait un truc avec Coca pour les jeux. Parce qu'ils étaient sponsors officiels des jeux. Ah si, 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 si. Si, si, c'est vrai. Ouais. Hey, Red Bull. Hein, Coca, ils ont fait. Red Bull avec le French Monster. Ah non, 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 Red Bull est pas avec moi. Faut éviter Perrier. En tout cas, ah bah oui, à cause du caca. Comment ça? Mais Red Bull est... Quelqu'un, Tom me dit Red Bull avec le French Monster, mais Red Bull est pas avec moi, je le saurais. Hein. Merci, c'est mon novice pour le 15e mois. Gotaga le French Monster? Ah, c'est Gotaga que vous appelez le French Monster? à la maison, c'est moi le French Monster. Enfin, c'est comme ça qu'on m'appelle à la maison. Pour ceux qui sont en train de me dire, mais il parle de Gotaga, mais j'ai la rêve, vous prenez comme un couillon ou quoi? Je l'ai reçu, Corentin, à la maison. On se parle, on s'envoie des messages. Voilà. Mais sauf qu'à la maison, chez moi, le French Monster, c'est moi. Le French Monster Munch, peut-être? Ah oui, il faut prévoir la soirée zombie. Simonovic, encore merci, et c'est parti. Allez, je vous dis ce qu'il y a dans l'actu ce matin, on est parti pour le sommaire. Pour ceux qui sont là pour la première fois, au début, je vous résume l'actualité en quelques minutes, c'est le sommaire, donc je vais très très vite, hein, je détaille pas, et après on parle de tout ça tranquillement. Oui, j'ai repris mes marques, Gabi. Alors on va commencer par... j'aime bien commencer à contre-pied, pas commencer par les drames, les catastrophes, les crises internationales, etc. Et j'aime bien prendre le contre-pied, commencer par des choses un peu sympas. Par exemple, on va commencer ce matin par la une. Non, pas Trump, t'es fou. Par contre, on va en parler de Trump ce matin. On va commencer par la une de l'équipe. Oui, Pauline, bien sûr, bien vu. Parcourir, journal, bim, géante. La une, elle est là. Tadam! J'ai longtemps. Je vais vous monter un peu la lumière, c'est pour ça que la caméra clignote. Bougez pas. Très belle une. Hein. Le Parisien consacre aussi sa une. Voilà, ça devrait aller mieux là. Voilà. Elle est belle. Alors pour le coup, moi, je suis parfois un peu critique avec certaines une en termes de DA. Moi, je trouve qu'elle est très belle. Très belle photo. Très belle image. Voilà. Géante. Voilà. Du sport féminin en une de l'équipe. Voilà. Moi, ça me régale. Tour de France féminin, donc Pauline Ferrand-Prévot a enthousiasmé les foules en remportant avec panache. Alors, je sais pas qui est panache, mais manifestement quelqu'un d'autre a gagné le Tour de France dès sa première participation. C'est quand même très beau. Oui, la typo. Oui, ah, j'avais pas vu la typo là. Ouais, ça va, ça va. Elle enrichit encore un palmarès déjà exceptionnel. À son tour, joli. Voilà. Comme le dit Clamakine, une femme en une de l'équipe, c'est peut-être un détail, mais c'est une immense avancée. Aujourd'hui, on parle de sport sans parler de sexe de plus en plus. Oui, tu as raison, et ça me réjouit aussi. Quoi. Voilà, donc c'est un exploit. Hein. Rappelons qu'elle vient, elle vient pas du VTT à la base, en plus que du cyclisme sur route. C'est la une du Parisien aussi, regardez. Quel tour de force. Un an après son titre olympique en VTT, la Rémoise remporte le Tour de France femme avec bravoure et panache. Ah, alors en fait, ils sont trois. Donc il y avait Pauline Ferrand-Prévot, il y avait Panache qu'on a vu en une de l'équipe, et manifestement il y a Bravo aussi qui a gagné. Super. Ils sont trois alors, mais alors, personne ne parle des deux autres. Bon, bizarre. S'imposant en solo dans la dernière étape en Haute-Savoie. La Reine Soleil. Ouh, jolie, la Reine Soleil. Merci de croire Roussien pour le cinquième mois. Merci de ton soutien. Voilà. Des JO autour, les coulisses d'un pari fou. Le papier de l'équipe est plutôt bien fait. Voilà. Donc voilà pour cette belle info. Ensuite, bon, forcément, ça va se dégrader. On va partir sur des choses un petit peu plus tristes. Oui, Trump hausse le ton face à Poutine. Donc, quoi, c'est que le Parisien, d'ailleurs, page 6. Non, c'est pas page 6, c'est page quoi, alors? Bah, si, page 6, j'ai noté page 6. Ah oui. On parlera aussi des vidéos du Hamas sur, bien sûr, les otages israéliens. Ne vous inquiétez pas, hein. Des ultimatums à Poutine sans effet. Après avoir flatté le maître du Kremlin pendant des mois, Trump applique une nouvelle stratégie pour obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. La menace. Hein. Jusqu'ici, elle s'est révélée inefficace. L'administration américaine qui dit « On a envoyé des sous-marins nucléaires dans les zones qui vont bien. » Pop, 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 pop. C'est également cette actu dans quel journal C'est l'une du Figaro aussi. Trump, la tension monte entre Ukraine, la tension monte entre Trump et Poutine. Je ne sais pas où ils vont nous emmener ces deux-là. En réponse aux provocations de l'ancien président russe Dmitri Medvedev, c'est lui qui a parlé des sous-marins. Le président américain a annoncé avoir déployé. Ah ben non. Ah non, c'est Trump qui a annoncé. Ah ouais, c'est Trump carrément les sous-marins. Le président américain a annoncé avoir déployé deux sous-marins nucléaires dans les régions appropriées. Pop, 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 pop. Voilà, voilà. Escalade nucléaire verbale pour l'instant. Les sous-marins, oui, j'ai comme un petit rhume. Pardon. Entre Moscou et Washington. Voilà. Et Medvedev joue un rôle dans tout ça. Ouais. On se penchera là-dessus. Poutine n'est plus son BFF. Exactement. Exactement. Medvedev qui a rappelé la puissance nucléaire russe. Ah oui, c'est ça. Donc on se penchera là-dessus, ça me semble assez important. Inquiétant. Bonjour, loin de moi l'envie de faire le rageux, mais il passe quand Joe pour régler le micro, c'est terrifiant là. Alors c'est moi qui règle mon propre micro, c'est pas Joe. Qu'est-ce qui va pas, Poison? On arrête tout. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va pas? Vas-y, Poison, il va pas pouvoir regarder le stream, il va rager. Là. Alors vas-y, fais une pause micro, qu'est-ce qui va pas? Il est pas assez noir? Alors, Ximaria, le micro est très bien justement. Vision Elf, il n'y a aucun problème avec le micro. Okay. Tout est nickel, Mumu. Ça va de mon côté. Aucun souci. Le mic est très bien. Le micro est parfait. Pas de problème. Tout va bien. Nickel le micro. Audio OK pour moi aussi. RAS. C'est parfait le son. Non problème. Le son est impeccable. Mais il est très bien le micro. Alors, la solution, manifestement, est plutôt Poison de ton côté. Merci d'avoir essayé de contribuer quand même à la qualité technique de ce stream. Alors, éventuellement, un changement de téléphone, un changement d'iPad, un changement de PC, un changement de casque, un changement d'enceinte, un changement d'oreille. Voilà. Ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Merci beaucoup, en tout cas, parce que je sais que ça partait d'une bonne intention. Donc, il n'est pas impossible qu'on parte sur le Proche-Orient après. Ouais, évidemment, je vous parlerai aussi de ça. Hein. L'histoire des vidéos des otages du Hamas. Regardez. L'insoutenable cruauté des vidéos du Hamas. L'organisation terroriste a diffusé des images mettant en scène des otages israéliens détenus à Gaza. Qui sont ces otages? Quelles sont ces images? Que peut-on en penser? Je vous lis au moins deux articles là-dessus ce matin parce que ça me semble important. Il y en a un dans Le Parisien, je crois qu'il y en a une dans Libération aussi. Si je dis pas de bêtises, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Draconian qui vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. Bon, je ne le mérite pas, mais merci beaucoup. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, non pas 6, non pas 7, non pas 8, non pas 9, mais 10 abonnements à la communauté. Draconian, tu régales. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci de ton soutien. Et donc, dans Libération, on ira voir aussi ce sujet, ça me semble important pour comprendre vraiment. C'est page 12. Regardez. Otage israélien à Gaza, l'onde de choc après une vidéo glaçante. Les dénonciations internationales se sont multipliées après la diffusion par le Hamas de vidéos de deux jeunes hommes enlevés le 7 octobre, très affaiblis. Voilà. Merci Draconian. Mais pourquoi le Hamas fait ça? Enfin, on va essayer de comprendre, quoi. Bonjour Sam, tu es tellement un personnage sympathique pour moi que cette nuit je t'ai croisé dans mon rêve et on s'est tapé des grosses barres. Ça n'était pas un rêve, Lumano. J'étais chez toi. Ah non, on n'est pas en collab commercial, non, excuse-moi. C'est le dernier stream parisien, il devait être en collab il y a un mois. Merci, Pré-Rio. C'était moi. Je me suis permis de venir. En vrai, on s'était vraiment tapé des barres. Le cerveau qui se protège en croyant que c'est un rêve. Exactement. C'est normal, hein, c'est une réaction normale, ton cerveau. Mais j'étais là, c'était moi. Hein. C'était moi. Donc on parlera de ça, bien sûr. Et à propos du Proche-Orient, il y a un autre sujet que je voudrais vous lire, je pense. Attends. Pourquoi je suis arrivé comme ça? C'est la lutte du monde. Faut que je me rime, là. Faut que je me mouche. Ah! Oh, le monde qui a bugué, mais bien. C'est marrant, le monde. Regardez ce qu'il nous fait, le monde, c'est marrant. Là, il y a un réglage à faire. Hein. L'a eu? Il prend tout. Ah, c'est génial, ça. Hein? Le monde qui part en couille, ironique. Joli, joli. Ouais. Il prend un peu ses aises, ouais. Attendez, je fais des petites... Marrant, ça. Attendez, je fais des petites captures d'écran. On va vous régler ça en 2-2, moi. Ici, on est dans l'informatique à bloc. Bougez pas les beaux gosses. Je vous arrange ça. Faut du doigté. C'est comme pour le réglage micro, faut du doigté. Ici, on a du doigté. Okay. C'est sur la reconnaissance de la Palestine. Parce que je pense que le sujet est tellement complexe. Attends, je vous mets l'édito de... Je suis toujours là, hein, vous inquiétez pas. Il y a un édito aussi que je vais vous mettre de côté. C'est le firewall du monde. Hop, voilà, ça devrait aller. Ok. Le monde a une espèce de firewall bizarre. Ah, c'est marrant ça. Du coup, on va passer par un autre biais. Voilà. Hop. Voilà. Donc la une du monde, c'est ça. Ces pays prêts à reconnaître la Palestine, hein, puisqu'à l'image de la France, le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal se disent prêts à reconnaître un État palestinien en septembre. Cet élan diplomatique vise à faire pression sur Israël, alors que la stratégie de l'État hébreu à Gaza et en Cisjordanie suscite une indignation croissante. Ça, c'est un nouveau dossier pour essayer de répondre à cette question qui est, que vous me posez souvent, mais à quoi ça sert de reconnaître l'État de Palestine? Hein? Quel est l'intérêt? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Et c'est une très bonne question. Voilà. Reconnaître la Palestine, un élan diplomatique. Dans le siège de la France, le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal ont pris un engagement similaire. On va essayer de comprendre ça. Voilà. Et j'ai un édito, voilà, qui va peut-être nous permettre de comprendre et de répondre à cette question. Voilà. À quoi ça sert? Est-ce que ça peut changer les choses? L'écho encourageant l'initiative française pour la Palestine. Voilà, donc on parlera du Proche-Orient à nouveau ce matin. On en parle tous les jours et ça me semble important. Merci beaucoup Emeritus Black. Merci Pierre-Yves pour ce 40e mois d'abonnement et de soutien. C'est juste complètement fou. Et merci Kiolin pour ce 12e mois. C'est dingue. Merci Le Croix-Roussien pour le 5e mois. Vous êtes formidable. Et merci encore Draconian pour tout à l'heure. Voilà. Donc Proche-Orient ce matin, comme toujours. Encore une autre actu. Ah, c'est intéressant ça. Hop, regardez, on va sur Libération. C'est la une de Libé, je crois. Ouais. Loi Duplomb, ce que dit vraiment la science. La loi Duplomb, vous savez, hein, cette loi, voilà, présentée par un sénateur qui est agriculteur, proche de la FNSEA. On est plus sur le soutien de la grosse agriculture productiviste. Matt, on commencera par Pauline, mais t'es un petit peu en retard. Vous le savez, avec plusieurs mesures sur les méga-bassines, sur la taille des exploitations pour être considérées comme des méga-exploitations, et bien sûr la réintroduction d'un insecticide extrêmement controversé. Tu as vu la pétition? Oh, pff, ça fait juste 2 mois qu'on en parle, OPNI, quasiment tous les jours ici. Oui, on l'a un petit peu vu, la pétition, ouais. Qui est au-delà des 2 millions. Et une des questions, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va revenir, c'est la carte d'acquis qui joue des siennes. Une des questions, c'est qu'est-ce que dit vraiment la science? Parce que dans le chat, ici, sur ce sujet, il y a des gens qui disent, et ailleurs d'ailleurs, bon, cet insecticide, il est 100% toxique pour les humains. Oui, réserve de substitution, pas mégamacine, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouh, le petit poétiquement correct au niveau des mots là. Déjà, le choix des mots, c'est déjà un choix éditorial. Donc, pardon pour la parenthèse, j'arrive, j'ai perdu un pari. Et donc, certains dans ce chat disent oui, 100% sûr, je l'ai lu, mon cousin m'a dit que voilà, ce produit est 100% dangereux pour les humains. Et dans ce même chat, des gens qui me disent fake news, c'est totalement faux, aucune étude scientifique ne dit que c'est qu'on est sûr que c'est dangereux pour les humains. Voilà. Donc, eh ben, un dossier comme celui-ci qui dit ce que dit vraiment la science, alors attention, alerte, dossier touffu, une pleine page, bien serré. Hein, les petits caractères, pas trop d'images. Voilà. La deuxième page, c'est pareil. Et ça écrit. Et une troisième page, bam, encore. Et plein de gens qui parlent. Voilà. Vous inquiétez pas, ça revient. Et voilà. Après, c'est la ménopause. Tiens, il faudrait que c'est intéressant ça. Bon, voilà. Un gros dossier, bien touffu, pas très aéré. Je me suis tapé une petite migraine à le lire. Mais j'essaierai de vous le résumer. Voilà. Parce qu'en fait, effectivement, un sujet complexe comme ça se résume pas en une phrase en disant « Ouais, moi j'ai lu des trucs, 100% c'est dangereux. » Ou l'inverse, 100% c'est pas dangereux. Donc on va essayer de comprendre et d'arriver à un avis. Voilà, sinon collectif, mais enfin, chacun se fera le sien après sur le sujet. Voilà. Financé par qui? Quoi, l'article? Reviens Arthur, tout à l'heure, reviens. Et je pourrais spoiler un petit peu, préchote la conclusion à laquelle Libération veut arriver, mais on le fera tout à l'heure. Je l'ai vu sur la page Facebook de Tata Simone, exactement, Erundil, ouais. Donc c'est très intéressant ça. En tout cas, Libé essaie d'avancer sur le sujet. J'ai perdu un pari, vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. Merci, mon ami. Merci, tu régales. Merci de ton soutien. Bon, pas mal. J'ai hésité à vous le proposer celui-là parce que. cette loi du plomb, on en a parlé quasiment tous les jours du mois de juillet, on en a déjà parlé au mois de juin, peut-être même un petit peu avant quand le texte était en préparation. Voilà. Alors c'est, d'ailleurs, c'est, j'ai dit une bêtise, c'est pas la carte d'acquisition du PC qui joue des siennes, c'est l'iPad. C'est l'iPad, c'est des conflits entre l'iPad et la carte d'acquis, mais c'est pas grave. Donc on lira ça. Qu'est-ce qu'on lira aussi ? On approche de la fin de cette revue de presse. Si on a... Ah ouais, ça c'est intéressant, c'est dans l'Huma. C'est l'une de l'Huma, je crois. C'est sur les titres de séjour, la numérisation, là. C'est un bordel sans nom. Alors, ça, c'est l'illustration, c'est ce que je fais ici. C'est pas la première fois que j'entends parler de ce sujet. C'est pas la première fois que je lis un papier. Mais jusqu'ici, les papiers ne m'avaient pas convaincu. Je ne l'avais pas trouvé très clair, très carré. Et j'attendais un dossier un petit peu carré sur le sujet. Bim ! La une de l'IMA, de l'Humanité, titre de séjour, le traquenard du tout numérique. De quoi s'agit-il ? On a un dossier qui va nous l'expliquer clairement. La plateforme ANEF, censée moderniser la gestion des papiers des résidents étrangers, accumule les dysfonctionnements. Perte d'emploi, de droits sociaux, les effets sont dramatiques. Alors ça fait un moment que j'entends parler de ça, mais j'ai trouvé un dossier extrêmement clair là-dessus. La galère numérique des étrangers, mise en place en 2020, c'est assez récent ce truc. Mais manifestement, c'est gavé de bugs. La plateforme ANEF, censée moderniser la gestion des titres de séjour, accumule les dysfonctionnements, perte d'emploi, de prestations sociales. Les conséquences pour l'Omnat, Darcylène, Yvan, Brice et tant d'autres qu'a rencontré l'Humanité sont dramatiques. Voilà. Bon, grâce à l'Humanité, on comprendra le souci. Un gros dossier dans l'Huma. Ma compagne est dans cette situation, c'est dramatique, me dit Oregon Globe. Oui, c'est vraiment très compliqué, ouais. Il y a des gens qui sont en France depuis super longtemps, qui ont un statut régulier, j'ai bien dit, hein. Idem pour mon mari, me dit Polypi, voilà. Et puis, à un moment, bah, il faut renouveler les papiers. T'as un emploi, t'as un logement, t'as des enfants, tout va bien. Et subitement, tu te prends une OQTF dans la gueule. Voilà. On te supprime tes prestations sociales. C'est un enfer. Idem pour mon mari, me dit Polypi. Oui, ça j'ai lu, pardon. Neina, la belle famille de mon collègue, est d'ailleurs touchée. Perte de titre de séjour, donc de travail. Oui, les employeurs qui vous disent, bah écoute, t'as plus de papier, donc moi je peux pas t'employer, quoi. Tout simplement parce que... Et alors que tout est OK, hein. C'est juste des retards administratifs en raison du logiciel, le truc qui marche pas, quoi. Perte du titre de séjour, donc de travail. Perte de logement, bénéficie de l'AME, etc., quoi. J'ai un collègue étudiant en alternance qui a un des problèmes avec ses papiers, me dit Yélix. 2 ans que ma femme attend son renouvellement, me dit Cotan. Voilà, ça, on ne l'invente pas, ça. Hein. Voilà, voilà. Ma maman, c'est son cas, me dit Luxia. Une galère alors qu'elle est en France depuis plus de 15 ans et a toujours travaillé. Bon, les enfants, on voit bien qu'il y a un problème, là. Hein. Vous vous rendez compte ? Cette phrase, elle est insane. Luxia nous dit, ma maman, c'est son cas. Hein. Une galère alors qu'elle est en France depuis plus de 15 ans et a toujours travaillé. Vous vous rendez compte ? Incroyable ça. La Guinette me dit, hello, travailler dans les systèmes d'information du secteur public, les coupes de budget font mal aux différentes applications du gouvernement. Ah bah ouais, à force de renier sur tout, il n'y a plus rien qui marche. Je suis en France depuis 15 ans, me dit I am somewhere else. Je suis en plein dedans pour mon renouvellement. Voilà, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Polypi, je suis persuadé que ce n'est pas juste un problème informatique. Alors, c'est ce que certains disent dans le dossier de l'UMA. Ils laissent entendre que ça arrange bien certains, quoi. C'est des quotas, donc c'est débile, me dit Clamakin. Peu importe ton passé, travail, insertion, enfant, t'es juste un numéro, donc on te coupe tout d'un coup pour des politiques pathétiques. Ouais, donc on lira. Bon, bah écoutez, content que ça vous parle. On parlera de ça avec l'Huma. Et puis la dernière info, je crois qu'on parlera un petit peu de jeux vidéo pour terminer en mode light, c'est dans Les Échos. Les Échos, c'est un journal économique qui se penche beaucoup sur l'industrie du jeu vidéo, il y a régulièrement des papiers. Ça parle du succès de la Switch 2, qui est manifestement un carton, c'est page 10. C'est où ça ? Ah, je suis déjà page 12. Trop rapide avec mes doigts. Ah non, c'est pas page 10. C'est page 17. Succès. Piste liquide, on se moque ? On se moque là ? Ça se moque ?
Lancement historique pour la Switch 2, le groupe japonais Nintendo a vendu plus de 6 millions d'exemplaires de sa nouvelle console en seulement 7 semaines.
Ah ouais.
Voilà. Et puis un petit papier aussi sur la bourse qui est mise sur les futurs hits du jeu vidéo. Voilà. Sur les marchés, les groupes derrière des franchises à succès. Donc on parle de Take-Two Interactive pour le GTA 6, on parle de CD Projekt pour ses prochains jeux. Hein. CD Projekt, c'est notamment Cyberpunk 2077. On parle de EA aussi, Electronic Arts, qui est en pleine remontada. Oh putain, je vous ai pas mis le papier. Je suis grave. Excusez-moi. Voilà. La Switch 2 et les futurs hits du jeu vidéo. Pas mal, on ira voir ça. Ça, c'est dans les échos, ça. Effectivement, pour ceux qui demandent le gros dossier sur les papiers des étrangers en France, là, c'est la une de l'Humanité. Ouais. Alors qu'elle coûte cher. Oui, c'est vrai qu'elle coûte cher. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Schizopathe, pour le deuxième mois. C'est gentil. Merci. Oui, bah oui, il y aura moins, vous allez moins voir les enfants, là, bien sûr. Là, pendant le mois de juillet, les enfants venaient souvent, ont beaucoup popé pour faire des chroniques Brawl Stars, Malo, Solal et même leurs petits copains qui étaient avec nous en vacances. Mais là, le studio est tout proche de la maison, mais il n'est pas à la maison, donc ils vont moins popé. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que, à la fois, je suis content quand les enfants viennent dire bonjour, avec la fameuse scène alerte enfant. Voilà. Mais j'essaie de les protéger un maximum de l'exposition. Hein, d'où le fait que je montre jamais leur visage. Donc il y a ça déjà. Il y a aussi le fait que, comme je veux pas profiter d'eux, j'ai édicté cette règle il y a longtemps. Quand les enfants viennent faire des petites chroniques, du coup les subs sont pour eux, parce qu'en fait je déteste l'idée que de par leur gentille présence, vous me donniez des subs. Donc du coup, j'ai édicté cette règle dès le début. Les subs pendant les chroniques des enfants sont pour les enfants, mais ils ont 8 et 5 ans. Et du coup, ils ont compris leur petit succès, ils ont compris que ils sont pas débiles, que leur petite prestation a rapporté des subs, un petit peu d'argent de poche. Et du coup, ça les fait focus, je trouve, à un âge qui est beaucoup trop jeune, beaucoup trop tôt, sur l'argent. Voilà. Et sur des cerveaux de petits, des cerveaux encore immatures, quoi. Et donc, je trouve que c'est bien, mais à petite dose, quoi. Donc là, c'était bien en vacances au mois de juillet. Mais je veux pas que ça s'installe. Voilà, j'avais arrêté avec Malo d'ailleurs, hein, on en avait parlé ensemble, je vous avais dit, à un moment je voulais même jouer aux jeux vidéo avec Malo en stream, parce que c'est des beaux moments de partage, j'adore jouer aux jeux avec mon frère, avec mes enfants, mais ça posait le même problème, c'est un mineur, c'est un enfant, même si on l'expose pas, on montre pas son visage, ça lui fait encore du temps d'écran, encore du jeu vidéo en plus, et puis encore des subs, puisque du coup j'aurais fait la même chose, les subs auraient été pour lui, et donc il aurait, voilà, et puis après les enfants disent, alors j'ai gagné combien de subs, qu'est-ce que je vais faire avec mes subs, putain, franchement, ils ont le temps, hein, ils ont le temps de se poser cette question, même, oui, effectivement, on pourrait mettre l'argent sur un compte à côté, t'inquiète, hein, ça, je le fais sans qu'ils aient besoin de streamer, on essaie de préparer leur avenir, mais c'est toujours pareil, c'est quand même l'idée que tu viens, tu fais un truc, tu gagnes des sous, est-ce qu'on peut pas les protéger un petit peu de ça? Est-ce qu'on peut pas les protéger un petit peu de ça? Est-ce qu'ils ont bien, le temps de penser à gagner leur vie, quoi? Donc voilà, donc c'est bien au mois de juillet, mais c'est bien que ce soit pas tout le temps, quoi. Merci, Étienne résume très bien ce que je viens de dire. Ne leur retirons pas leur jeunesse, je dirais même leur enfance, quoi. Ouais. Ouvre-leur un PEA, mais une bonne partie de suite te remercieront dans 20 ans. Sauf erreur de ma part, il faut être majeur pour ouvrir un PEA déjà. Voilà, tu peux l'ouvrir un contrat d'assurance vie. En euros ou même en unité, hein, de compte, en action, hein, avec une autorisation parentale, gérée par les parents, bien sûr, à partir du moment que, en revanche, c'est à eux, hein, tu peux pas, en tant que parent, tu peux pas le truc. Mais je crois que pour un PEA, par contre, il faut être. Il y a des PEA jeunes ? Ah ouais, ça m'intéresse, ça. Ça existe, un PEA jeune ? Je pensais que ça n'existait pas. PEH jeune pour oui pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ah non, de 12 à 25 ans. Ah non, ça c'est PEH jeune. Non, ça c'est livret jeune ça. PEH jeune. 18-25 ans les PEH jeunes. Donc là, ça marche pas votre histoire. Quel âge PEA? PEA jeune, c'est 18-25. C'est quand les jeunes sont encore attachés au foyer fiscal des parents. Et ça se transforme en PEA classique quand ils ont 25 ans. Ah ouais. Ah, vous m'aurez pas sur les questions financières, c'est un truc. C'est un des sujets que je lis un petit peu. Voilà. Donc le PEA, je confirme, donc c'est à partir de 18 ans. Voilà. Par contre, tu peux leur ouvrir un contrat d'assurance vie en euros ou en unité de compte, en action. Hein. Voilà, c'est juste, il faut signer un papier auprès de la banque. Parce que du coup, tu assumes le. Si c'est en action, par exemple, tu assumes le risque un peu à leur place. Par contre, à un moment où tu ouvres à leur nom, c'est à leur nom et tu ne peux plus toucher. Hein. Voilà. Ouais, Choupignon, je vois que tu t'énerves un petit peu là. Les modérateurs t'ont déjà alerté. Voilà, donc attention quand même. Hein. Je vois que tu prends à partie un petit peu des gens dans le chat. Là, tu es un petit peu énervé ce matin. Qu'est-ce qui se passe, Choupignon? Peut-être une soirée arrosée. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous nos choupis. Laisse tranquille les viewers. Bon, on va commencer cette revue de presse. Achète du Bitcoin et donne-lui l'accès à ses 18 ans. Ça y est, il y a des conseillers financiers dans le chat, j'adore. On y va pour cette revue de presse. Salut mon pantoufle. Salut Sam, juste pour être sûr, tu nous filmes pas avec tes lunettes, hein? Je ne dis rien. Peut-être. Peut-être que je suis en train de vous filmer. Merci Daoud pour le 4e mois. On ne sait pas. On y va? Bonjour Sam, tes lunettes te donnent un petit côté Ethan Hunt. Pas mal. Merci Gérard. Allez, on y va. On commence par les bonnes nouvelles? Hein? Dans un an, Samuel va nous sortir un making-of de questions pour un champion fumé avec des lentilles, j'adore. Bienvenue Yevlova. Yevola, pardon. J'ai écorché ton prénom. Ton pseudo. Allez, let's go. Un petit côté, ouais, un petit côté. J'ai bien compris que c'était un petit côté. Ouais. De dos, de loin, la nuit, dans le brouillard, avec un mur entre lui et moi, non. Allez, let's go. Allez, c'est la lune du Parisien. Hop. Hop, c'est l'une de l'équipe aussi, avec ce Tour de France féminin. Merci, et voilà. Gagné par Pauline Ferrand-Prévot pour sa première participation. C'est une dinguerie. Un an après son titre olympique en VTT, car elle vient du VTT, la Rémoise remporte le Tour de France femme avec bravoure et panache. S'imposant en solo dans la dernière étape en Haute-Savoie. La Reine Soleil, c'est joli. Voilà, un destin hors du commun, vous avez son portrait ici. Voilà. J'ai cru voir que le dossier de l'équipe était plutôt bien fait, donc on peut aller le voir peut-être. Mais si on reste sur notre fin, peut-être qu'on viendra sur le Parisien qui nous parle notamment de ce pari insensé, ce pari sportif. La reine de la petite reine, on valide MMG. Des Jeux Olympiques autour, les coulisses d'un pari fou, comme à Paris 2024 où elle avait assommé la concurrence. Bam! Pauline Ferrand-Prévot a gagné le tour et réalisé son rêve de petite fille. Récit de 12 mois d'une préparation parfaitement maîtrisée, elle nous a vraiment fait rêver cette dame, dit Jonathan Smith dans le chat. Voilà, déjà un phénomène quand elle avait 10 ans, une femme incroyable. Et c'est la une de l'équipe, je vous le disais. Ça a cartonné sur France Télévisions, me dit Pépin Camille. Je te crois, je ne suis pas allé voir les audiences, mais je sais que effectivement pour le Tour de France de l'an dernier, déjà ça avait cartonné. Et voici la une de l'équipe, regardez comme c'est beau. Géante! Pauline Ferrand-Prévot a enthousiasmé les foules en remportant avec panache le tour de sa première participation. Elle enrichit encore un palmarès déjà exceptionnel. Elle a assommé la concurrence et du coup, Sylvain me pose la question que personne n'ose poser. Et pourtant, c'est une très bonne question, très pertinente. Est-ce que ce n'est pas de la triche d'assommer ses adversaires en cyclisme? Oui, je pense. Je ne suis pas un spécialiste, mais bon, je pense que là, il faut se poser des questions. À son tour. Voilà. Et là, on a à la fois un papier qui la félicite et un papier qui revient sur son parcours. Donc là je pense que c'est elle toute jeunette. Là, on parle d'elle à 10 ans, peut-être, c'est ça. Voilà, et puis aujourd'hui. Voilà, article de Benoît Furic. Oui, on est d'accord, assommer les adversaires, c'est pas. C'est interdit, je pense. Hein. Surtout qu'un gourdin. Enfant, dans la maison champenoise de ses parents à quelques kilomètres de Reims, entouré de son grand frère et de sa petite sœur, Pauline Ferrand-Prévot se calait dans le canapé familial l'été venu. Voilà, au retour du Reims Université Club, où elle s'essayait pendant les vacances à une multitude de sports différents, elle regardait avec avidité les retransmissions du Tour de France masculin. C'est fou, hein? Au retour du... Attends, j'allais redire la même phrase, c'est là, ça. C'est toute petite, hein. Je collectionnais les cartes de coureurs, ça m'obnubilait, retrace-t-elle. Voilà. Et elle disait souvent, j'aurais aimé être un garçon pour pouvoir participer au Tour de France, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Tour de France féminin. Une frustration qu'elle combattra longtemps en variant les disciplines sportives, qu'elle a définitivement effacées, car non contente d'avoir assuré l'essentiel, vous inquiétez pas, ça revient. Samedi, en haut du col de la Madeleine, en emportant l'étape et en s'emparant du maillot jaune, elle a décidé de récidiver hier. Une étape de plus, mais cette fois en jaune, et au bout des 1170 km accomplis en 9 jours, le gain du Tour de France Femmes dès sa première participation. Et comme toujours, avec un sens aigu de la compétition. On apprend qu'elle a fait du patinage artistique dans sa jeunesse aussi, toute petite. Mais très vite, elle dit à sa maman, « Maman, je veux faire comme toi du vélo. » La semaine suivante, l'idée ne la quitte pas. Elle a quel âge à l'époque? Elle a 5 ans. Voilà. Et qu'importe qu'elle ne sache pas en faire son petit trou. Ah ben moi j'ai toujours les petits trous, moi. J'ai fait un peu de vélo à une époque, je faisais du triathlon. Bon, j'étais pas très très fort en vélo, j'avais les petits trous, moi. Bon, tout le monde se moquait de moi, mais j'étais pas le dernier. C'est rare que les Français gagnent le Tour de France. Ah bah ben, chez les hommes, c'est pas arrivé depuis Bernard Hinault, je crois, non? Bernard Hinault ou Laurent Fignon, je sais plus. Voilà. Et sa maman raconte, je l'ai emmené au parc Léo Lagrange à Reims. Voilà, qui était, sa maman était une. Hein, c'est Hinault? Ouais, c'est Hinault. Fignon l'a gagné aussi. Mais c'est Hinault le dernier, ouais. Chez les hommes, ouais. Après, il y a eu Jenny Longo chez les femmes, ouais, peut-être aussi, ouais. Voilà. Et donc, sa maman raconte, voilà, je l'ai emmené au parc Léo Lagrange. Raconte Sylviane, elle-même ancienne coureuse cycliste. Je lui ai enlevé les roulettes, je l'ai mise en haut d'une butte, c'est mignon ça. Elle a dévalé et s'est payé un arbre en bas. Ah, ça c'est moins mignon. Donc ça aurait pu s'arrêter là. Hein. 3 Tours de France pour Jenny Longo, c'est beau. Pas effrayée, la très jeune Pauline prend la direction de l'école de cyclisme, à la pédale rémoise, puis à l'AC Bazancourin, c'est un club créé par sa maman. Ah, il y a un contexte familial quand même, hein. Très vite, elle battait les garçons sur les compétitions. Les parents disaient que quand certains gamins voyaient arriver la voiture, ils baissaient la tête. C'est trop chou. Très vite, elle battait les garçons sur les compétitions. Les parents disaient que quand certains gamins voyaient arriver la voiture, ils baissaient la tête. Raconte sa maman. C'est trop mignon. Elle a fait elle a nagé aussi. Elle était bonne en natation aussi. Mais le cyclisme devient toutefois très vite. Ça revient, vous inquiétez pas. La colonne vertébrale de son existence. Beaucoup d'énergie, je vous lis pas tout l'article, mais vous irez lire, c'est dans l'équipe. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle a un caractère de fou, quoi. Et de fixer sans arrêt des nouveaux objectifs, toujours plus durs à atteindre. C'est beau, c'est très beau, c'est très beau. De très belles images. Là, on la voit justement avec Jenny Longo, vous évoquez à l'instant, là. C'est une photo qui a été prise hier. C'est beau, hein. Jenny Longo qui a dédié sa vie aussi au cyclisme. Voilà. Voilà, et toujours de nouveaux objectifs. Il y a encore un certain nombre de courses que je n'ai pas gagnées, dit-elle. Elle a gagné Paris-Roubaix aussi, un classique. Hein. Voilà. Et on va aller voir le Parisien, parce que dans le Parisien, il y a des infos intéressantes aussi. Donc on va lire l'article du Parisien. Il y a les gagnantes, il y a les championnes et les légendes. En remportant le Tour de France femmes ce dimanche avec une nouvelle victoire d'étape au lendemain de sa démonstration dans le col de la Madeleine, Pauline Ferrand-Prévot est rentrée dans ce dernier cercle des légendes. Un cercle restreint, sélectif, réservé à une élite. Marie-Josée Pérec, Laure Manaudou, Clarissa Beignenou en font notamment partie chez les femmes. Samuel Etienne, chez les hommes, notamment, ajoute le Parisien. Je crois que je viens d'inventer ce passage. Mais il suffit de regarder son palmarès pour se rendre compte avec 15 titres de championne du monde dans 7 épreuves différentes, une médaille d'or olympique, un monument Paris-Roubaix 2025. Et désormais le Tour de France femme, elle ne peut presque plus ranger ses trophées ou ses maillots distinctifs dans sa maison. Il faut acheter une plus grande maison. Elle reste toutefois insatiable, comme l'a prouvé cette grande boucle. Un rêve de petite fille, disait-elle. Honte sur moi, je ne savais pas que le Tour de France féminin existait. Oh, bah pourtant, Mika, elle est con. Les médias en parlent vraiment beaucoup. Hein, c'est vachement exposé sur France Télévisions. Bon, je suis pas un fou de vélo. Moi, je vous ai lu très peu d'articles en juillet. Mais tous les jours, en juillet, il y avait des articles dans quasiment tous les journaux sur le Tour de France féminin. La fin de l'article est jolie aussi. Une génération Pauline Ferrand-Prévot pourrait maintenant émerger, une vague de jeunes cyclistes passionnés, désireuses d'imiter leur idole, de décrocher ne serait-ce qu'un centième de son gigantesque palmarès. Hein, c'est vrai qu'on voit comme ça des champions gagner. On sait qu'il y a toujours... quand un Français gagne une grande compétition internationale de sport, vous savez qu'en général, il y a beaucoup d'enfants qui s'inscrivent dans les mois qui suivent dans ce sport. Hein. Salut, Sulivage Bonkiné. Car si la Rémoise, conclut l'article, lors de ses jeunes années, voulait être un garçon pour participer à la plus grande course du monde, on l'a lu tout à l'heure, voilà, ce n'est désormais plus nécessaire. Et c'est sans doute aussi une grande victoire. Salut, Plasma, bienvenue. Voilà, on a un article aussi sur sa carrière, un destin hors du commun qui a l'air sympa aussi. Je vous le lis aussi parce que je ne connais pas très très bien son palmarès, son parcours. Hein. Je ne suis pas un grand spécialiste de cyclisme, je vous le disais. Merci beaucoup Xiris pour ce 23e mois d'abonnement, c'est adorable. Merci à tous hein, pour ce matin. Brouzouf, je ne sais pas si je t'ai remercié. Daoud, je ne sais plus. Merci encore, hein. Merci à tous. Elle ne doute jamais, malgré les échecs, les blessures, les défis, tous plus grands les uns que les autres, Pauline Ferrand-Prévot sait que rien ne peut lui résister quand elle est décidée de gagner. Comme à Paris l'été dernier, lorsqu'elle a enfin décroché l'or olympique en VTT, ou au Tour de France Femmes, qu'elle vient de remporter dès sa première participation, ce qui est juste dingue. Quoi. La Rémoise est une championne d'un autre calibre, une cycliste multitâche, multitalent, multicouronnée, qui n'a peur de personne, comme le souligne sa maman, Sylviane. Voilà. C'est beau. Cela s'est vu, la Française est désormais une championne totale. Quelqu'un me disait dans le chat, merci beaucoup. Bravo, merci Razomela, merci, bonne journée, bon courage pour le travail. Avec 15 titres, vous vous rendez compte? De championne du monde, une médaille d'or olympique, Paris-Roubaix, le Tour de France femme, la Française n'a plus d'égal. Voilà, c'est la meilleure cycliste de l'histoire du vélo, reconnaît le manager d'une équipe adverse en personne. Une légende qui a assommé la grande boucle de sa classe, ridiculisant presque la concurrence, qui ne surprend même plus ses proches habitués à la voir faire de grandes choses, mais qui a assouvi des étoiles plein les yeux son rêve de petite fille, celui d'une gamine qui commençait le vélo à 5 ans dans le silage de ses parents. Elle s'est pris un arbre aussi, hein, personne ne le dit, mais... Guillaume me dit, Jeannie Longo, on a bavé quand elle courait le Tour de France, les coureurs masculins l'insultaient même devant les caméras, ça a bien changé, heureusement, bravo Pauline. C'est beau. C'est beau. Sacré dame. Hein. Sacré dame. Hein. Là, il y a un article dans le Parisien sur sa préparation. Parce qu'en fait, c'est vraiment, elle a fait une préparation de fou. Hein. Elle a fait une préparation de fou parce que le VTT, c'est une autre discipline. Et voilà, l'article que je ne vous lis pas dans le détail montre que quand elle a commencé à s'aligner sur route, cyclisme sur route, elle a vu que sur les étapes longues, hein, avec des gros volumes horaires et de kilomètres, elle n'avait pas le niveau des meilleurs. Voilà. Et elle s'est enfermée, elle s'est entraînée seule, voilà, elle a fait des courses où elle a vu que ça allait mais qu'elle n'était pas au top, et elle s'est informée, elle s'est entraînée comme incroyablement, quoi. Voilà. Et avec cet objectif qu'elle vient d'atteindre, c'est fou, quoi. C'est beau. Bah, je vais faire ça à Danse avec les Stars en plus. Elle a conquis les cœurs aussi. Manifestement, elle est très populaire. Ouais. Danse avec les Stars, on va faire ça aussi. Moi, je vais faire Danse avec les Stars. Enfin, j'ai deux objectifs là à court terme. C'est Danse avec les Stars et la présidentielle 2027. Donc, un jour, je vais faire Danse avec les Stars. On part de zéro. Hein. Compliqué, le rapport à la danse et au rythme et à la musique ici. Et on va s'entraîner. Hein. On va s'entraîner, on fera des streams d'entraînement de danse, hein. et on fera danser avec les stars. On va bien rigoler. Merci Nicole DVX. J'espère que vous serez derrière moi. Hein. Merci. Sur un tcha-tcha, Samuel Etienne, exactement. Si Moscato l'a fait, tu peux le faire. Voilà, on va tout donner. Hein. On va bien rigoler. J'espère que vous serez là pour me soutenir. Ça se trouve, je vais vraiment le faire, vous savez pas. Tous derrière le boule qui chamboule. Oula, j'aime ça. Ce sera la première fois qu'on verra un président de la République danser avec ses homologues au G7. En tant que star? Non, en tant que danseur. Non, si je vais danser avec les stars, moi je serai du côté des danseurs. Je sais pas avec quelle star je vais danser. Non, moi je serai en tant que danseur. Non, parce que vu mon niveau en danse. Réglage des. C'est agréable ça. Des couloirs. Vu mon niveau en danse, moi je serais côté danseur, moi. Ça pourrait pas être un goal du The Event de faire un message à TF1 démontrant tes compétences et ta volonté de participer à Danser avec les Stars? Ah, c'est pas con ça. Qui dit Danser avec les Stars dit plus de revues pendant un moment. Monsieur, on fera tout ici. Monsieur. Il y en a une qui va être. Hélène? Ah oui, Hélène, elle est aussi. Bon. Hélène, elle est pas trop enthousiasmée par le projet. Ni présidentiel. Ni tout ça avec les stars. Mais elle me suit dans mes délires. Elle me suit. C'est l'amour, ça. Elle me suit dans mes délires. Si un jour on me propose danser avec les stars, elle me suivra. Elle dira, vas-y, fais tes folies, là. Merci, Juju. Merci pour le 11e mois d'abonnement. J'épingle ça, c'est trop mignon. J'adore cet humour. C'est Okni qui dit Samuel, je crois que tu as oublié de retirer ton pare-brise de ton nez. Moi, je valide. J'ai une deuxième paire, j'ai acheté une deuxième paire encore plus grosse. Je vous la montre demain si vous voulez. Je valide. Là, je valide la blague. Moi. On valide ici. Si t'as un impact. De la taille d'une pièce de 2 euros. Oh là là. Ah, elle adore. Vous m'auriez allé, hein. Homme à grosse lunette. Bah, l'homme à grosse lunette. Ils font carglace, à votre avis, les lunettes comme ça? Comment t'arrives à pas être susceptible? Bah, je le suis un peu, hein, forcément, parfois. Mais non, en vrai, non, ça va. C'est le chat, hein, t'es habitué, hein. Pourquoi les gens se moquent, Futong? Merci Futong. Pourquoi les gens se moquent, dit Futong? C'est super de voir Sam streamer depuis sa voiture. Elle est pas mal. J'avoue. Non, elle est bonne. On valide. Elle est bonne. Non, c'est mignon. Ok, donc voilà pour Pauline Ferrand-Prévot. Et on dit encore un grand bravo à cette dame, à cette immense sportive. Ok, bon, maintenant on arrive sur les choses qui fâchent. On va du côté de Trump et Poutine. Ça commence à se tendre leur histoire là. Tiens, on reste dans le Parisien, tiens, page 6. Comment t'arrives à pas être susceptible? Je suis sur Twitter. Ah oui, très bonne réponse de Mademoiselle Bébé. C'est vrai que quand t'as un compte Twitter et que t'es une personnalité un tout petit peu exposée, juste de lire Twitter tous les jours, les petites notifications avec ton nom dedans, c'est un bon entraînement en vrai. Hein. Voilà. C'est un bon entraînement en vrai. Voilà. Après, t'es assez. Ça va, tu gères. Alors ça. Il y a un article sur l'incroyable cruauté des vidéos du Hamas. On va en parler aussi. Hein. Je commence d'abord par Trump et Poutine, mais on va en parler. Hein, je n'oublie pas, bien sûr. Voilà. Des ultimatums à Poutine sans effet. Ça se tend. Voilà. Après avoir flatté le maître du Kremlin pendant des mois, Donald Trump, qui devait résoudre la guerre en Ukraine en 24 heures, hein, c'était dans son programme présidentiel, applique une nouvelle stratégie pour obtenir un cessez-le-feu en Ukraine, la menace. Jusqu'ici, elle s'est révélée inefficace. Rappelons que ce monsieur rêve d'avoir le prix Nobel de la paix. Donald Trump commence toujours sa phrase de la même façon, je lui donne, puis le décompte est lancé, 2 semaines, 50 jours, 10 à 12 jours. Avec le temps, les ultimatums lancés par le président américain Vladimir Poutine pour conclure un cessez-le-feu en Ukraine ont des airs de déjà-vu. Comme leurs répercussions, la guerre se poursuit, les troupes russes grignotent du terrain, des civils sont tués, les discussions autour d'une trêve sont toujours au point mort, le patron du Kremlin reste impassible. Voilà, on pourrait dire pour résumer que Poutine l'a un peu roulé dans la farine, le Trump pour l'instant. La dernière menace, dont le compte à rebours s'achève dans quelques jours, sera-t-elle plus efficace? Le 28 juillet, le locataire de la Maison Blanche, s'est dû déçu de son homologue russe, à qui il avait donné quelques jours plus tôt un délai de 50 jours pour mettre fin aux hostilités. Trump qui est extrêmement surpris que Poutine ne lui obéisse pas, quoi. Furieux, il a réduit l'échéance de 10 à 12 jours, et brandit des sanctions contre tous les pays qui marchandent avec Moscou. Voilà. La fièvre est montée d'un cran vendredi quand le milliardaire a ordonné le déploiement, ça commence à se devenir sérieux cette histoire, le déploiement de 2 sous-marins nucléaires en réaction à des commentaires jugés incendiaires de la Russie. Analyse d'un chercheur, c'est dans son ADN de menacé, observe Romuald de Ciora. C'est aussi dans l'ADN américain, un pays de pionniers, mais il est certainement le président le plus représentatif de cette partie de l'identité américaine. Oui, suite à des tweets de Medvedev, mais on va en parler. D'autant que Trump a fait de la fin de la guerre en Ukraine une promesse de campagne. J'y mettrai fin en 24 heures. Il était élu quand, le président américain? Il est entré en fonction quand, Trump? Disait-il pendant la campagne. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier, donc c'est 24 heures très longues. Hein. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier, il s'active donc à remettre à plat les relations des États-Unis avec Kiev et Moscou. Vladimir arrête. Il a quand même pas dit ça. Ah si, il a dit. Oh, quelqu'un dans le chat disait Vladimir arrête. Et je pensais que c'était une vanne. Genre t'as pas d'emploi, trouve-en un. Tu veux maigrir, maigris. Arrête. Je pensais que c'était une vanne. Non, il l'a dit. Ah merde, j'avais oublié. Salut, Chacha Oval. Le président change de discours par rapport à son prédécesseur, Joe Biden, en refusant de désigner la Russie comme agresseur. C'était en janvier, ça, vous vous rappelez? Il décroche son téléphone le 12 février, après 3 ans de silence entre Washington et Moscou, pour appeler son homologue russe. Il humilie Volodymyr Zelensky. Vous vous souvenez de cette scène surréaliste où il humilie le président ukrainien dans son bureau ovale de la Maison Blanche, je crois. Dans le bureau ovale, oui. Et met en pause l'aide militaire à Kiev. Mais Vladimir Poutine ne scie pas, Donald Trump change son fusil d'épaule, la manière douce ne fonctionne pas, il rugit pour la première fois le 7 mars, en menaçant la Russie de sanctions bancaires et de droits de douane. Maigre résultat, un accord de cessez-le-feu sur les sites énergétiques ukrainiens ne tiendra que quelques jours. Un temps, Trump va feindre le désintéressement, puis enrage de nouveau. Le 24 avril, après une nouvelle vague de... Oh, pardon. J'ai une espèce de rhume, là. Pas une bague, une vague. Une vague de bombardements mortels sur l'Ukraine. Il se dit pas content sur son réseau social Truth. Voilà. Vladimir, arrête. Vladimir, stop. Il a fait ça. Trump a dit à Poutine à un moment, arrête. Arrête Vladou. Putain, j'avais oublié ça. Depuis qu'il a été élu, il triomphe. Aux États-Unis, il a mis au pas le judiciaire, la Cour suprême, les universités, liste Romuald Sciorra, le chercheur. À l'international, il a participé à des accords de paix entre plusieurs pays, a contribué à affaiblir le programme nucléaire iranien, il tient ses promesses. Reste l'épine du dossier ukrainien. Sa stratégie se heurte à un mur, l'inflexible Vladimir Poutine. Merci, Ange, pour le prime. Les Russes parient sur le fait qu'il n'ira pas au bout de ses menaces ou qu'il prendra des mesures secondaires, analyse Ulrich Bunat, qui est un autre chercheur spécialiste du conflit en Ukraine. C'est difficile de leur donner tort. Jusqu'ici, depuis plusieurs semaines, les ultimatums ne sont pas suivis d'effet. Le spécialiste rappelle le surnom dont le septuagénaire a hérité, notamment à cause de ses volte-face sur les droits de douane. Vous connaissez Taco, hein, pour Trump always chickens out. Traduction, Trump se dégonfle toujours. Ses ennemis s'en amusent. Juste après la dernière menace, l'ancien président russe Dmitri Medvedev le raille sur X. Trump lança un ultimatum théâtral au Kremlin, le monde trembla, s'attendant aux conséquences, la Russie s'en ficha. Pendant ce temps, Poutine en profite, son armée avance, il peut faire durer les choses, constate Ulrich Buna. La stratégie de Trump fonctionne avec les alliés de Washington ou les pays en situation de faiblesse, mais pas avec la Russie. Le magnat de l'immobilier a ses obsessions, dont celle d'obtenir le prix Nobel de la paix. Un cessez-le-feu en Ukraine jouerait en sa faveur. Le locataire de la Maison-Blanche a aussi besoin de contenter sa base électorale. Les élections de mi-mandat, qui approchent doucement, hein, pour les deux chambres du Congrès américain. La guerre en Ukraine est l'une de ses promesses phares, rappelle Romuald Sciorra. En septembre, il est possible que les deux dirigeants se rencontrent en Chine, donc Poutine et Trump. La discussion pourrait être décisive, anticipe le spécialiste des États-Unis. Si un accord a été trouvé, pas de doute, Trump s'en attribuerait les mérites. Bon. Donc voilà où on en est. Comme beaucoup, je suis en train de réfléchir tout seul. Comme beaucoup, je suis en train de me dire quelle pourrait être l'issue de ce conflit, quoi. Voilà. Un front qui ne bouge quasiment plus, hein, mais avec une armée russe qui, au prix de pertes humaines colossales, grignote un petit peu de terrain chaque semaine aux Ukrainiens. Un coût financier humain gigantesque pour les deux pays. Voilà. L'aide des pays occidentaux, qui est très importante aussi pour l'Ukraine, depuis des mois, depuis des années maintenant. Un président russe qui semble totalement inflexible, qui manifestement ne veut pas lâcher ce conflit tant qu'il n'a pas atteint ses objectifs de guerre. Quelle peut être l'issue de ce conflit ? Petite Pierre, c'est absolument terrifiant, j'évite de me renseigner la plupart du temps, sinon je me sens vaciller mentalement. Ne t'inquiète pas. Le monde est à feu et à sang, mais le monde a toujours été à feu et à sang. C'est juste que maintenant on s'en rend un peu plus compte, en fait, avec les médias, tout ça. Voilà. Mais t'inquiète. L'humanité est toujours en train d'osciller entre quelque chose de formidable et d'être sur le point de disparaître. Voilà. T'inquiète, tout va bien, t'inquiète. Voilà. Ne consomme les médias, mais avec parcimonie, bien sûr. Protégez-vous, hein, l'actualité est souvent extrêmement anxiogène. Voilà. Donc, si vous sentez que cette actualité, toutes ces mauvaises nouvelles que moi-même je rapporte, vous font du mal personnellement, voilà, en termes de santé mentale, protégez-vous. Voilà. Consommez l'actualité, mais avec parcimonie. Parcimonie, c'est une copine. Voilà, désactivez-moi les notifications de vos téléphones, de vos tablettes. Voilà. Ne vous installez pas des heures devant les chaînes d'info. Hein. Choisissez quand et où vous consommez de l'info. Voilà, aux doses que vous choisissez. Voilà, c'est important. C'est important d'être un citoyen éclairé et d'être informé. Voilà. Mais ne vous laissez pas déstabilisé personnellement par tout ça, quoi. Perso, je ne consomme que des notes de patch. Brawl Star me dit T-Max sur le périph. C'est pas vrai puisque tu es là. Mais merci, mais c'est bien. Merci LNPK pour le 7e mois. Ça arrive là. 17 mois. Voilà. Donc voilà pour le Proche-Orient. Et puis un autre truc qui nous intéresse sur, pour l'Ukraine. Et je crois que sur l'Ukraine, c'est tout ce matin. Mais on va suivre ça dans les prochains jours. Attendez, je vérifie quand même que sur l'Ukraine, c'est tout pour ce matin. Ouais, maintenant, je vais vous parler du. Ah non, c'est la nuit du Figaro quand même. Pardon. La tension monte entre Trump et Poutine. Regardez. En réponse aux provocations de l'ancien président russe Dmitri Medvedev, le président américain a annoncé avoir déployé deux sous-marins nucléaires dans les régions appropriées. Okay. Eux, ils sont très sur les sous-marins. Le Figaro. Le Figaro qui rappelle que Moscou brandit régulièrement des menaces nucléaires depuis le début de cette guerre en Ukraine. Hein. En rappelant qu'ils ont la bombe atomique, quoi. Vous avez un gros dossier dans le Figaro également. Ah oui, donc Medvedev. Medvedev qui n'occupe qu'un poste de conseiller au sein du gouvernement russe. Mais c'est pas lui qui avait été président russe à un moment? Espèce de président fantoche, alors qu'en fait c'est Poutine qui tirait comme les ficelles, qui pouvait pas être réélu en raison des règles constitutionnelles russes, c'est ça? C'est pas Medvedev? Si, c'est ça, hein? C'est ça. Hein. Voilà. Donc toujours très proche de Poutine, manifestement. Voilà. Donc Medvedev, qui n'occupe qu'un poste de conseiller au sein du gouvernement russe, qui manie volontiers la surenchère verbale, brandit régulièrement la menace de recourir à l'arme atomique, a mis en garde Trump contre le risque d'une escalade contre la Russie et les États-Unis. Et là, j'ai le contenu de ses posts sur X. Qui a fâché un peu Trump. Trump joue au jeu de l'ultimatum avec la Russie, 50 jours ou 10, a écrit Medvedev. Il devrait se souvenir de deux choses. Un, la Russie n'est pas Israël, ni même l'Iran. Deux, chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas de plus vers la guerre. Ah ouais. Réponse de Trump, dites à Medvedev. L'ancien président russe raté qui se prend toujours pour le président, ça c'est Trump ça. J'adore. De surveiller ses propos, il s'aventure en terrain très dangereux. Les gars sont dans un concours de zizi quand même. Hein. Ça joue avec la sécurité mondiale, mais hein, c'est quand même moi qui ai la plus grosse, quoi. Pas moi, hein. C'est leur jeu à eux. Hein. Nous voulons toujours être prêts, c'est pourquoi j'ai envoyé deux sous-marins nucléaires dans la région. Je veux simplement m'assurer que ces paroles ne sont que des paroles et rien de plus. Il est en mode, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Waouh. Alors, le Figaro essaie de nous apaiser un petit peu. Au lieu de déclencher une crise internationale, puisque certains se disaient un peu inquiets dans le chat tout à l'heure, cet échange de messages belliqueux entre deux grandes puissances nucléaires semble pour le moment n'avoir eu que des effets limités. Les États-Unis disposent de plusieurs types de sous-marins, tous à propulsion nucléaire, plusieurs SSBN américains équipés de missiles à ogive nucléaire sont en permanence à la mer, leurs positions sont inconnues. Et ils n'ont pas besoin d'être déplacés pour pouvoir exercer leur capacité de dissuasion. Donc en fait, le Figaro nous dit Trump, il raconte un peu de la merde en fait. Les sous-marins, par définition, on ne dit pas où ils sont. Et de toute façon, quel que soit leur endroit, ils peuvent taper, quoi. Les SSN à propulsion nucléaire, mais équipés d'armes conventionnelles, sont déployés dans toutes les mers du globe. Voilà. Intéressant. Je vous lis. Ah oui, sous-marins nucléaires, comme le rappelle Clap de Crap, les sous-marins nucléaires ne sont pas nécessairement porteurs de l'arme nucléaire. Quand on dit sous-marin nucléaire, on parle de la propulsion, hein, des moteurs nucléaires. Je vous rappelle que j'ai fait mon service Dans la Marine nationale, matelot, deuxième classe, Saint-Mulétienne, au rapport. Pendant 10 mois, j'ai bouffé du bateau, du sous-marin, à côté français, hein, puisque j'ai fait mon service dans la Marine nationale et pas américaine ou russe. Hein. Voilà. Mais du coup, j'avais un peu bossé le sujet. Je pensais que c'était l'inverse. Ah non, quand on dit sous-marin nucléaire, c'est, on parle de la propulsion. Ouais. J'ai pas été sous-marinier, non. Voilà. Brecht Navi nous dit, par exemple, en France, on différencie les SNA, sous-marins nucléaires d'attaque, et les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui ont l'arme atomique. Ouais. D'où ta future candidature en 2025 qui se prépare en sous-marin. Exactement. Exactement. Bien vu. Dis-nous plutôt ce que t'as pas fait, ça ira plus vite. Ah, je suis vieux, donc j'ai fait des trucs. Ça, c'est l'avantage de l'âge. C'est l'avantage de l'âge. Bon, les modos, vous avez vu, he's back. bon, on en reparlera, on va suivre ça dans les prochains jours. Parlons du Proche-Orient, revenons à ça quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vidéo là? L'insoutenable cruauté des vidéos du Hamas. L'organisation terroriste a diffusé des images mettant en scène des otages israéliens détenus à Gaza. Ce sont les images d'un pays sous le choc meurtri. Mains, rouges, drapeaux, pancartes, slogans. Ils étaient des dizaines de milliers à se rassembler samedi soir à Tel Aviv pour réclamer le retour des otages toujours détenus par le Hamas à Gaza. Selon les chiffres de l'armée israélienne, 49 sont toujours en captivité, dont 27 déclarés morts. Car si d'un côté la situation dramatique de la population gazaoui au bord de la famine généralisée selon les Nations Unies ne fait aucun doute, c'est tout Israël qui a été pris d'effroi à la vue des 3 vidéos diffusées cette semaine par le Hamas et son allié, le djihad islamique. Sur celle-ci, 2 otages, donc on les cite, Rom Breslevski et Aviatar David, apparaissent très faibles. Merci du reçu pour ton raid. Je reviens à toi dans un instant. Merci du reçu. On est sur les otages... israéliens, apparaissent très faibles et amaigris dans une sinistre mise en scène qui fait écho à la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne, notamment confrontée à une situation de famine alimentaire. Sur une des séquences, Aviatar David apparaît torse nu, la peau sur les os. Christophe dit « Je ne comprends pas très bien le Hamas alors que l'opinion publique est en train de changer en faveur de la Palestine et presque même pour le Hamas. » Non, peut-être pas quand même. « Quelle est l'utilité de publier une telle vidéo qui va forcément faire vaciller l'opinion publique ? Très étrange comme stratégie. » Je me pose la même question, Christophe. « Il se trouve dans un tunnel, une pelle à la main. Ce que je fais, c'est que je suis en train de creuser ma propre tombe, dit cet otage. Le temps presse. Vous êtes les seuls à pouvoir mettre fin à cela, poursuit-il sans doute à destination du gouvernement israélien. » Les images sont insoutenables, très dures à regarder jusqu'au bout. Ce n'est pas sa voix habituelle, elle ne lui ressemble pas du tout. Il utilise ses dernières forces pour parler, il est complètement épuisé. A réagi sur Instagram sa sœur Yaela David, comme repéré par le journal israélien Yediot Aharonot. Face à cette situation, le Premier ministre israélien Netanyahu a exprimé sa profonde consternation dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche. La cruauté du Hamas n'a pas de limite, a-t-il ajouté, parlant d'une mise en scène cynique et odieuse. Le Premier ministre a sollicité l'aide du Comité international de la Croix-Rouge pour fournir nourriture et traitement médical aux otages israéliens. Des réactions à travers le monde, bien sûr. En Europe, la chef de la diplomatie de l'Union européenne a parlé ce dimanche d'images effroyables d'otages israéliens. Emmanuel Macron a, lui, dénoncé des images insoutenables démontrant la cruauté abjecte et l'inhumanité sans limite du Hamas, et le président français de redire sa volonté de reconnaissance de la Palestine par la France qui n'est pas à saisir une reconnaissance du groupe terroriste comme veut le faire croire pourtant Israël. Dans cette perspective politique de solution à 2 États que nous portons, nous exigeons la démilitarisation totale du Hamas, son exclusion complète de toute forme de gouvernance et la reconnaissance d'Israël par l'État de Palestine. On va lire un 2e article là-dessus. Ah. Mervillon me dit, c'est vraiment le bordel, toute cette situation, je ne comprends pas les tenants et aboutissants du conflit. Alors, je t'invite à venir nous voir régulièrement. On en parle tous les jours depuis des mois. Et on essaye de comprendre justement. On va dans Libération qui en parle aussi ce matin. C'est page 12. Merci Yann, merci pour ton 44e mois, c'est incroyable. L'onde de choc après une vidéo glaçante. Hein. Libération qui est un des journaux qui nous parle le plus de la situation des Palestiniens et des Gazaouis, mais qui se penche aussi là sur la situation des otages. Les dénonciations internationales se sont multipliées après la diffusion par le Hamas de la vidéo de ces deux jeunes hommes enlevés le 7 octobre et aujourd'hui très affaiblis. Voilà. Libération reprend les propos du président Macron. Voilà. Libération rappelle que sur les 251 personnes enlevées par le Hamas lors de l'attaque contre le sol israélien, 49 otages israéliens sont toujours retenus à Gaza par le Hamas. Mais 27 d'entre eux ont été déclarés morts déjà par l'armée israélienne. C'est la première fois que des images montrent Rom Brassalevski et Eviatar David, deux jeunes hommes enlevés au festival Nova, vous rappelez le festival de musique, le 7 octobre 2023, ont été divulgués par le Hamas et par le djihad islamique, son allié, jeudi et samedi, après près de 22 mois de captivité. Elles sont terribles. Effectivement, dit Libération, ces images, les deux otages israéliens paraissent très affaiblis, très amaigris. Leurs proches redoutent même qu'une course contre la montre ne soit désormais engagée pour leur survie. Pardon. Leurs proches redoutent même qu'une course contre la montre ne soit désormais engagée pour leur survie. Dans un élan qui pourrait sembler cynique, le premier ministre israélien Netanyahou a demandé dimanche l'aide du CICR pour fournir la nourriture et un traitement médical à ses seuls otages. Effectivement, c'est cynique. Depuis jeudi, les images des deux Israéliens emprisonnés, plus particulièrement celles montrant Eviatar David dans un état squelettique au fond d'un obscur tunnel de Gaza, ont été reproduites sur les réseaux sociaux par les partisans de Netanyahou, pour contrebalancer l'effet d'autres clichés évoquant la famine en cours à Gaza, qui une dizaine de jours auparavant avait également bouleversé le monde, ceux d'un enfant gazaoui de dos, des images qu'on a vues ici, décharné et visiblement affamé à la suite du blocage persistant de l'aide alimentaire destinée à la bande de Gaza. Libération continue son article sur les discussions en vue entre Israël et le Hamas pour essayer de trouver une solution, notamment sur la libération des otages, mais ces discussions sont au point mort. Je vous lis un petit peu maintenant. Et après, je vous ferai un dossier dans je ne sais plus quel journal, que je trouve, qui me semble assez bien fait, sur pourquoi il est important de reconnaître l'État palestinien, pourquoi la reconnaissance par un pays comme la France, par exemple, l'Angleterre et l'Australie s'apprêtent à faire de même, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi c'est important, alors, même si ce n'est pas un game changer à court terme, bien sûr. Ah, le Canada, c'est le Canada. Ah, oui, le Canada. J'ai dit l'Australie, mais je pensais au Canada plutôt. En quoi elles sont plus terribles que les images quotidiennes de Gaza, me dit Mouetig. Personne ne l'a dit ici. Bon, en tout cas, je ne l'ai pas vu dans le chat ou alors j'ai raté des messages. Évidemment, moi, je ne le dis pas et dans les journaux, je ne l'ai pas lu non plus. vous lis. Aria, c'est clairement mentionné dans les journaux par des adjectifs qu'ils n'utilisent pas pour décrire la situation à Gaza. Aria, je pense que c'est ta première fois sur cette chaîne. Nous lisons tous les jours, ici, depuis des mois, les articles de la presse française, des journaux que moi je lis, sur la situation en Cisjordanie et à Gaza. Et je peux te dire qu'ils décrivent très clairement ce qui se passe à Gaza. Si tu le dis ici, c'est que c'est ton premier live ici. Ou alors tu as raté par hasard toutes les à peu près 1h30 que nous consacrons chaque jour à ce sujet. Quoi. Donc, le cas, ça n'est pas grave, mais tu peux faire les replays. Tu as tous les replays gratuitement sur Twitch ou sur YouTube. Je vous lis. Bon, les modos, je vois qu'il y a un ami qui s'appelle Choupignon, Choupignon 2, je suis un peu perdu, qui est en roue libre depuis le début de ce stream. Moi, je rappelle la politique de modération ici. À un moment, si un viewer parmi des milliers vient polluer l'expérience de stream sur des sujets aussi compliqués, essentiels, difficiles que le Proche-Orient, vient... polluer cette expérience et nous aide pas à avancer. Bon bah dans ce cas-là, il faut hélas se séparer de la personne. Je pense que pour le bien commun, voilà, on banne dev très très peu ici. Mais ce stream va être à peu près regardé par 50 000 personnes au total, en nombre de personnes uniques hein, sur 3 heures. Bon si une personne vient polluer cette expérience, on est obligé de s'en séparer parce que c'est pas intéressant pour la communauté quoi. Allons plus loin sur un sujet qui est essentiel aussi, qui est la reconnaissance de l'État de Palestine. Vous savez que le président Macron, il y a quelques mois, a promis que la France allait reconnaître l'État de Palestine, ce que le Parlement français a déjà fait il y a longtemps, mais pas l'exécutif, pas la France par la voie de l'Élysée. Il l'a promis, finalement ça s'est pas fait parce qu'il y a eu l'attaque israélienne contre l'Iran, et donc ça a été reporté, et puis il l'a réaffirmé il y a quelques jours, et cette fois ça semble sûr, en septembre prochain, Assemblée générale de l'ONU, la France va reconnaître l'État de Palestine, voilà. Par la voie de son président. Voilà. Dans la foulée, d'autres pays... alors qu'on n'attendait pas cette annonce, comme la Grande-Bretagne, comme le Canada aussi, on dit qu'ils allaient faire d'eux-mêmes. Voilà. Comme avec un espèce d'entraînement, finalement, de par la position de la France. Et vous êtes très nombreux à me poser cette question depuis quelques jours. Qu'est-ce que ça peut changer? Voilà, comme le dit Mika, mais à quoi ça sert de reconnaître la Palestine? Il y a un dossier ce matin qui va peut-être nous aider un petit peu à avancer là-dessus. Qui est dans quel journal? Dans Le Monde, je crois, c'est la Une du Monde. Alors est-ce que cette fois le monde y fonctionne? Oh non, c'est pas grave, on va chercher les captures d'écran, ça marche bien. Ceux qui ont la réponse en une ligne ou une ligne et demie sur la question à laquelle je viens de poser, sur ce sujet infiniment complexe, et qui arrivent à avoir une réponse radicale, claire, nette, en une dizaine de caractères, je vous félicite. Je sais pas comment vous faites, mais alors vraiment je vous dis un grand bravo. Je ne sais pas comment vous faites ça. C'est magnifique. C'est la Une du Monde, regardez. Ces pays prêts à reconnaître la Palestine. À l'image de la France, le Royaume-Uni et le Canada, le Portugal maintenant, se disent prêts tous à reconnaître un État palestinien en septembre au siège de l'ONU. Je vous en parlais. Cet élan diplomatique vise à faire pression sur Israël. On a un début d'élément de réponse. À quoi ça sert? Cet élan diplomatique vise à faire pression sur Israël, alors que la stratégie de l'État hébreu à Gaza et en Cisjordanie suscite une indignation croissante à travers le monde qu'on constate ici tous les jours depuis des mois. Reconnaître à la Palestine un élan diplomatique, peut-être que cet article du Monde va nous aider un petit peu à comprendre. Article signé Claire Gatinois. Au fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas, dans le Var, où le couple présidentiel a élu domicile depuis le 1er août pour ses congés d'été, Emmanuel Macron peut savourer sa victoire diplomatique. Lui qui fut travaillé par le doute, Inquiété par les représailles formulées en coulisses par Israël, n'a-t-il pas eu raison finalement de franchir le pas? Le président a annoncé le 24 juillet qu'il reconnaîtrait la Palestine en septembre lors de l'AG des Nations Unies à New York. La promesse rédigée dans une lettre adressée au chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est décrite par le président français comme un devoir moral à l'heure où le gouvernement israélien de Netanyahou orchestre une famine dans la bande de Gaza et accélère l'annexion de la Cisjordanie. La France, impuissante à faire cesser le conflit à Gaza, déclenché après les massacres du 7 octobre 2023 commis par le Hamas, présente son initiative diplomatique comme un chemin vers la paix, censé, encore un élément de réponse, à quoi ça sert de reconnaître l'État de Palestine ? On a vu un premier élément, faire pression davantage sur Israël, un deuxième ici, censé raviver la solution à deux États, hein, que rejettent Netanyahou et ses ministres d'extrême droite. Mais ça, je ne les comprends pas dans le chat, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais cette décision a sans surprise irrité Israël et déplut aux États-Unis, son allié le plus proche. La France pouvait craindre d'être isolée sur la scène internationale. Pourtant, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Dans le sillage de M. Macron, le Premier ministre du Royaume-Uni, celui du Canada et celui du Portugal ont fait en l'espace de quelques jours un pas similaire, s'engageant à reconnaître aussi l'État palestinien d'ici au rendez-vous onusien. C'était l'un des paris de la présidence, c'était que ce move, ce texte, cette prise de position allait entraîner d'autres pays. Assez pour affaiblir la rhétorique de l'État hébreu qui qualifie cette reconnaissance de cadeau fait au Hamas. La dynamique prend, c'est incontestable, se félicitons à l'Elysée, il plane un vent de soulagement à Paris, où on se souvient de la pression exercée par Israël. En mai, l'État hébreu avait prévenu que si la France mettait sa promesse à exécution, elle serait exclue de tous les pourparlers une fois la guerre finie. Le jour d'après, vous sortez du jeu, le statut de la France sera équivalent à celui de la Slovénie, avait assuré un cadre du gouvernement Netanyahou. Je vous lis pas tout, vous lirez Le Monde. Hein. Donc finalement, il a, malgré les menaces israéliennes, le président Macron a fait la déclaration que vous savez. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est le dans les prises de position similaires du Canada, de la Grande-Bretagne et du Portugal, qu'est-ce qui vient éventuellement de la France ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un effet d'entraînement par la France ou pas ? À Londres, à Ottawa ou à Lisbonne, personne ne veut apparaître comme le suiveur de la France. Il est vrai que c'est avant tout le récit des atrocités commises par l'armée israélienne qui, émouvant les opinions publiques partout dans le monde, a poussé ces pays à sauter le pas. Pourquoi on agit ? C'est une réponse très simple, c'est Gaza. Hein ? Tranche un diplomate canadien. Excusez-moi, je lis de temps en temps, je lis certains messages. À Londres, dès le 12 juillet, 60 députés du Parti travailliste, auquel appartient le Premier ministre, appelaient le Royaume-Uni à reconnaître immédiatement la Palestine, dénonçant le nettoyage ethnique en cours dans la bande de Gaza. Les crimes commis par les colons israéliens en Cisjordanie, les images d'enfants gazaouis, décharnées comme les alertes des ONG sur les niveaux élevés de malnutrition provoqués par le blocage des livraisons d'aide humanitaire par Israël, ont fait leur œuvre. Bien que l'État hébreu interdise aux journalistes étrangers l'accès à Gaza, sa justification des événements faisant du Hamas l'unique responsable du désastre gazaoui a peu à peu été contrariée. Ça, c'est la manière dont Israël veut présenter le conflit. Bon, du côté de la France, on pense que Paris a joué un petit peu un rôle de catalyseur pour nos partenaires. Nos partenaires disent non, c'est pas Paris, c'est nous. Bon, peu importe, l'important, c'est le résultat, bien sûr. Merci, Eculardon. Merci pour ton 7e mois. Merci pour ton message. Merci, Lewis, pour le 8e mois. Merci, Poulpe Gentil, pour le prime. Alors, c'est pas tout. Il y a ces pays occidentaux, là, qui s'engagent pour reconnaître l'État de Palestine. Et puis, il y a des mouvements du côté des pays arabes aussi, hein, de la région. Au même moment, l'Égypte, la Turquie, le Qatar, la Ligue arabe ont fait un pas historique, rappelle la diplomatie française, participant au groupe de travail visant à concrétiser cette solution à deux États, dont je vous parle souvent. Ces pays ont signé le document final condamnant l'attaque du 7 octobre, appelant à la démilitarisation du Hamas. Pour moi, c'est la première fois que des pays arabes de la région appellent au désarmement du Hamas et plaidant pour une architecture de sécurité régionale sur le modèle de l'OSCE. Salut David. Il a fallu tenir bon jusqu'à la dernière minute pour faire aboutir ces engagements sans précédent. Il y a eu une conférence à l'ONU à New York il y a quelques jours. Le ministre allemand des Affaires étrangères estime que cette conférence a montré qu'Israël se trouvait de plus en plus en position minoritaire dans la communauté internationale, jugeant que la catastrophe humanitaire à Gaza dépassait l'imagination. C'est ce que dit ce responsable allemand. Donc c'est le pari français. Alors reste à voir si ce pari sera gagnant ou pas. Alors que les morts de civils augmentent dans l'enclave palestinienne, la France pense que son initiative, soutenue par des pays de poids, accentue la pression sur Israël et son allié américain, le seul à exercer une influence sur Netanyahou. Alors quand vous connaissez les liens entre Israël et les États-Unis, quand vous connaissez le soutien gigantesque des États-Unis à Israël depuis toujours, en fait, le soutien de Trump à Netanyahou, c'est une donnée extrêmement importante de cette équation. Le jour où Trump soutient moins fortement ou commence à lâcher un tout petit peu Netanyahou, je ne sais pas si ce jour arrivera, mais pour le coup, c'est un vrai game changer dans la région, quoi. Certes, Trump a signifié son mécontentement à l'égard des pays reconnaissant la Palestine jusqu'à menacer le Canada de mesures de rétorsion. Voilà. Trump a quand même dit au Canada, votre reconnaissance de l'État palestinien, là, ça va compliquer grandement la conclusion d'un accord commercial avec les États-Unis. C'est du Trump. Mais, il y a un mais, le président américain observe que ses concitoyens, y compris au sein de son électorat MAGA, lâchent peu à peu le gouvernement Netanyahou. « Mon peuple commence à détester Israël », a signalé le locataire de la Maison-Blanche devant un important donateur juif à la fin du mois de juillet. Voilà. Donc, on a quelques éléments de réponse ici sur quel est l'espoir, qu'est-ce que peut changer cette reconnaissance de l'État palestinien, qui est déjà reconnue par la plupart des pays du monde, hein. C'est juste qu'en fait, dans cette plupart des pays du monde qui reconnaissent l'État palestinien depuis très longtemps, il manque les plus grandes puissances, notamment militaires, diplomatiques et commerciales, quoi. Donc, l'espoir des pays qui sont en train de signer cet accord, c'est que Israël soit de plus en plus isolé et doive mettre fin, quand je dis Israël, c'est le gouvernement israélien, bien sûr, à cette politique mortelle pour le peuple palestinien qu'il mène en Cisjordanie et à Gaza. Voilà. Rappelons qu'il y a des élections aussi qui vont se tenir en Israël en 2026. Je vous lis un petit peu. Après tout ce qui s'est passé, penses-tu qu'une solution à deux États est encore possible? On n'a jamais été aussi loin de la paix. Tu as raison, Panzoli, on n'a jamais été aussi loin de la paix, mais la solution à deux États me semble être la seule solution pour amener un jour la paix dans la région. Donc elle me semble très compliquée à atteindre, cette solution, mais pour moi, c'est la seule. Je ne sais pas si tu l'as cité, mais même en Israël, il y a des manifs pour arrêter le massacre qui attirent pas mal de gens. Cratésia, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, effectivement. Je rappelle que le peuple israélien, traumatisé par les attentats du Hamas quand même, est un peuple comme tous les peuples qui est divisé, même si aujourd'hui il semblerait conditionnel, parce que ce ne sont que les enquêtes d'opinion, que les sondages. Qu'est-ce qu'il dit ? Excusez-moi, je suis comme ça. Tiens, après je vous lirai un message là. Il semblerait, parce que ce sont des sondages, des enquêtes d'opinion, que une majorité du peuple israélien aujourd'hui semble soutenir le gouvernement Netanyahou. Semble. Voilà. Et semble soutenir la politique du gouvernement israélien vis-à-vis des Palestiniens. Semble. On ne le saurait vraiment qu'en cas d'élection. Voilà. Mais en tout cas, c'est un peuple divisé et il y a des Israéliens. On a lu beaucoup d'articles ces derniers temps donnant la parole à des Israéliens condamnant hyper fortement la politique du gouvernement Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite. Donc ces Israéliens existent. Que représentent-ils aujourd'hui de l'opinion publique israélienne ? Personne ne peut le dire exactement. Mais oui, bien sûr. Dans, des deux côtés, côté palestinien comme israélien, il y a toujours eu des partisans de la paix. Et il y a toujours eu des partisans de la guerre que sont, par exemple, aujourd'hui, le Hamas et Netanyahou. Merci Rémi Leptique. Merci de tout soutien. Merci pour les 5 abonnements offerts à la commune. Je vous lis. Alors, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Non pas parce que certaines questions je les trouve pas pertinentes, c'est parce qu'en fait mais je fais avec mes connaissances aussi. Hein. Il est de bon ton dans cette démocratie des réseaux sociaux que chacun ait à se positionner radicalement sur tous les sujets du monde entier avec en étant sûr de lui sur tous les sujets. Alors je sais que c'est pas très à la mode, mais ici on doute, on s'interroge, on n'a pas un avis sur tout. Parfois on ne sait pas, parfois on a tort aussi. Je parle de moi. Mais donc parfois il y a des questions que je trouve très pertinentes et je j'y réponds pas parce que je n'ai pas la réponse. Ah, très bonne question de par exemple de Yonéa. Si un État palestinien a été créé, quelles seraient ses frontières ? Ah, hein. Voilà, lesquelles ? C'est une des questions qui aura tranché. J'ai lu que Netanyahou faisait cette guerre pour rester en place et éviter un jugement. C'est le cas. Oui, c'est le cas. Netanyahou, il a un max de casseroles judiciaires aux fesses. Et le jour où il n'est plus Premier ministre de l'État hébreu, il y a une forte chance qu'il ait à comparaître devant les tribunaux. Voilà. Donc tant qu'il reste... Enfin bon, il y a une obsession pour lui de rester au pouvoir. Bon, si à un moment il pense que la guerre est une manière pour lui de rester au pouvoir, ce qui est sûrement le cas, oui. Oui. Sachant que les prochaines élections auront lieu, nous rappelle MMG, dans un an plus tard. Il y a des législatives qui seront très intéressantes à suivre en Israël. Donc, c'est un régime parlementaire, donc élection générale extrêmement importante en 2026. Sachant que des élections anticipées peuvent être déclarées. Donc ces élections peuvent avoir lieu avant, mais elles peuvent pas avoir lieu après, quoi. Salut le flou et bonjour à ta maman. Bon les amis, on ne va pas résoudre la problématique du Proche-Orient ce matin. On en parle tous les jours. On en parle tous les jours. On essaye de suivre tous les développements. On essaye de comprendre. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Voilà. Donc, je ne sais pas si on y arrive. Je ne sais pas si ceux qui suivent ce stream quotidiennement estiment que la lecture de ces dossiers, de ces journaux, nous propose une lecture de plus en plus précise du sujet. Mais c'est ce qu'on essaye de faire, bah, littéralement depuis des années, puisque ça fait des années qu'on en parle ici, mais, et puis plus précisément depuis des mois. Voilà. En tout cas, on essaye. Je me suis fait supprimer mon message juste parce que j'ai dit la vérité, me dit quelqu'un dans le chat. À partir du moment où vous estimez que votre opinion sur quelque sujet que ce soit est la vérité et que vous avez raison contre les autres, voilà, c'est problématique. Quelle que soit ta vérité d'ailleurs. J'ai toujours du mal avec les gens qui pensent avoir la vérité contre les autres. On peut avoir des valeurs, on peut avoir des opinions, on peut émettre fortement des idées, des analyses pour essayer de convaincre les autres, mais à un moment dire « j'ai la vérité, voilà, ma lecture est la bonne », je trouve ça problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en ce faisant, tu fermes le dialogue, en fait. Voilà. Même avec des gens qui peuvent avoir complètement tort, voilà, parce que tu as peut-être totalement raison. Mais en affirmant que tu détiens non pas une opinion ou des valeurs, mais la vérité, tu fermes tout dialogue avec des gens que tu pourrais tenter de convaincre par ailleurs, qui ont peut-être tort, hein, qui ont peut-être tort. Mais si vous mettez des gens dans une pièce, dans un chat ou au comptoir d'un café, et que des gens convaincus tous d'avoir raison sur tous les sujets, eux-mêmes étant en désaccord entre eux, bon, il va rien se passer, quoi. On en parle demain, comme tous les jours. Rendez-vous demain, si le Proche-Orient vous intéresse. En tout cas, je suis content qu'on évoque ce sujet tous les matins. Est-ce qu'on reste sur l'international derrière ? Je pense que c'est pas impossible. On a fait donc Trump, Poutine, on a fait l'Ukraine, on a fait le Proche-Orient. Merci Cookie. Et maintenant, on va faire quoi ? Ouais, ça, c'est, on vient de le faire, d'accord. Attends, il y avait un édito du Monde que j'ai oublié, attends. Non, mais il redit ce qu'on a vu dans l'article, c'est bon. Ok. On en parle demain. Tour de France, on l'a fait déjà en une, tu es un petit peu en retard, mais tu l'as en replay, Zark. Voilà. Tu t'es réveillé trop tard. Tu l'as en début de ce stream, en replay gratuit sur Twitch et sur YouTube aussi à partir de demain. Donc on va sur la loi du plomb. Oh le gros dossier. Merci New Super Gamer pour ton raid à l'instant. Sur la loi du plomb. Gros. Limite indigeste. Loi du plomb, ce que dit vraiment la science. À cet ami Pride, Libération a enquêté pour démêler le vrai du faux sur les risques sanitaires et environnementaux liés à la réautorisation possible de l'insecticide controversé. Bon, la loi du plomb, on en parle tous les jours, depuis des mois ici, voilà, et certains dans le chat, tous les jours, me disent, il n'y a aucun débat, on est sûr que cet insecticide est dangereux pour la santé humaine, et d'autres affirment ici, sans nuance également, ce que vous dites est faux, il n'y a aucune preuve scientifique du danger de cet insecticide controversé pour la santé humaine. Bon, alors Libération a décidé d'enquêter sur le sujet. Énorme dossier, hein. Il y a trois pleines pages, Voilà. C'est un gros dossier, on va pas le lire en entier, mais on va essayer de comprendre ce que nous dit Libé. Voilà. À cet ami pris, la fabrique d'une controverse politico-scientifique. Réautorisée par dérogation pour ceux qui n'ont pas l'info. Madaron veut voir ton OnlyFans, je suis mort. Point d'exclamation OF. Et dit à un moment de ne pas hésiter à s'abonner. Réautorisée par dérogation après le vote de la loi du plomb. Attends, il faut que je réponde à Joe. Attends. Je suis en live. De revue de presse. Jusqu'à 12h30. Puis je t'attends à la maison. Après, on va manger. On va manger avec les enfants. Hop! Lisons. Bah, lisons, on va tout lire. Je vais essayer de dégager l'essentiel de ce gros dossier. Tout le monde s'en rapporte à la science, mais personne n'en tire les mêmes conclusions. C'est un peu embêtant. Pourtant, la question est d'intérêt majeur sur le plan environnemental et sanitaire. Voilà. Actée par la controversée loi du plomb, définitivement adoptée le 8 juillet à l'Assemblée. Voilà. La réintroduction sous condition de l'acétamipride, puissant insecticide utilisé dans les champs et les vergers pour se débarrasser des ravageurs, est-elle vraiment fondée sur des faits, des expertises, comme le martèle, par exemple, la ministre de l'Agriculture, le patron de la FNSEA et la droite et l'extrême droite. Voilà. Voilà. C'est les gens qui disent cette réintroduction, elle est fondée voilà, sur des faits scientifiques, hein, il n'y a aucun danger pour la santé humaine. Ou bien est-ce une décision politique et dangereuse, comme le clame un cortège de médecins, de scientifiques et d'associations. Sur ce sujet explosif, il est excessivement important de s'en tenir à la recherche. Réitère Sylvie 04. C'est pas Paris, ça. 04. Sylvie Bortoli, toxicologue à l'Institut National de la Santé et à la Recherche Médicale, donc à l'INSERM. Que dit cette scientifique ? Aujourd'hui, il y a un ensemble de signaux assez inquiétants qui n'ont pas été assez pris en compte lors des débats parlementaires. Débat écourté, puisque les partisans du texte ont tout fait pour qu'il n'y ait pas vraiment de débat à l'Assemblée, vous le savez. De nombreuses études consacrées à l'analyse de cette substance décrivent des effets toxiques pour plein d'espèces, dit la chercheuse. Le Conseil constitutionnel se penche aussi sur la question... sa décision qu'on attend cette semaine d'ailleurs. Donc, très attendue cette semaine, on suivra ça dans les journaux, la décision du Conseil constitutionnel qui peut décider de dire que cette loi est totalement ou partiellement inconstitutionnelle. Décision très attendue par les opposants à cette loi. Interdit en France depuis 2018, mais autorisé en Europe jusqu'en 2033, ce néonicotinoïde qui attaque mortellement le système nerveux des nuisibles est réclamé, vous le savez, par les producteurs de betteraves et de noisettes pour lutter contre les pucerons transmetteurs du virus de la jaunisse pour les premiers et contre le balanin qui dévore les oléagineuses pour les seconds. Mais cette poudre blanche inodore n'épargne en réalité ni les autres vertébrés, invertébrés, ni même les humains. De plus en plus d'éléments indiquent que son exposition pourrait être génotoxique, reprotoxique et neurotoxique pour les mammifères, y compris pour l'homme, résumait dans une étude publiée en 2023 la biologiste Lucia Lucikova et son équipe, après avoir à l'époque épluché l'entièreté, l'intégralité de la littérature scientifique disponible à partir de l'acétamipride. À titre d'exemple, des recherches menées sur des animaux à une certaine dose suggèrent que ce néonicotinoïde pourrait altérer le métabolisme des glucides, contribuant à l'augmentation des cas de diabète de type 2, ou encore être un facteur de risque pour les maladies rénales chroniques. L'une des plus grandes craintes concerne l'impact neurotoxique sur le développement cérébral des fœtus et des jeunes enfants. En 2022, une équipe de chercheurs suisses a ainsi retrouvé plusieurs néonicotinoïdes dans le plasma, l'urine et le liquide céphalo-rachidien de 14 patients âgés de 3 à 18 ans. Tous atteints d'une leucémie ou d'un cancer du système lymphatique. Même en l'absence de données épidémiologiques et malgré les limites de certains de ces travaux, ces signaux multiples font probablement de ce néonicotinoïde, l'un des plus dangereux pour les humains, alerté fin mai, le chimiste et toxicologique Jean-Marc Bonmatin, qui est chercheur au CNRS. Des études indépendantes sur le sujet sont relativement récentes, et toute sa... Écoutez bien les mots. Et toute sa nocivité n'a pas encore été bien démontrée, mais il est bien nocif. Ce scientifique, Jean-Marc Bonmatin, dit que c'est une aberration scientifique de dire le contraire. Voilà. Ça, c'est pour les conséquences sur la santé humaine. S'agissant de la biodiversité, terrestre ou aquatique, il y a, pour le coup, il y a quasiment aucun doute hein, sur les conséquences néfastes du pesticide. Celui-ci peut perdurer pendant plusieurs décennies dans les sols et voit sa toxicité même augmenter de 100 fois quand il est en contact de fongicides. Pour toutes les bestioles qui supportent la vie sur cette planète, l'acétamipride est toxique à 100%, insiste Jean-Marc Bonmatin. Je vous lis les passages les plus importants. Même si après la promulgation de la loi, loi qui n'est pas promulguée à ce jour, la loi a été votée mais elle ne s'applique pas encore, il faut qu'elle soit promulguée par le président de la République. Le président de la République qui doit, qui peut, c'est un pouvoir que lui donne la Constitution, ne pas promulguer cette loi et demander un nouveau débat. Voilà, ça a déjà été fait dans le passé, je ne sais pas si le président Macron va le faire ou pas. Mais si cette loi est promulguée, la molécule ne sera pulvérisée que sur 2% du territoire français, rappellent ses partisans. Voilà. Sauf qu'en fait, cette molécule, emportée par le vent et les pluies, colonisera bien au-delà. Cette substance contamine les sols, les eaux de surface et l'air. Elle entre dans les plantes véhiculées par la sève, contamine les fruits que nous mangeons. On en a même retrouvé dans des précipitations au Japon. Par conséquent, c'est toute l'échelle du vivant qui est touchée, les insectes, les vertébrés, les oiseaux, mais aussi les poissons. Ce sont des éléments connus depuis une dizaine d'années, dit encore le chimiste Jean-Marc Bonmatin. Je ne vous lis pas tout le passage, hein, sinon on va y passer la matinée, il y a d'autres actus bien sûr. Donc, Libération rappelle que c'était sous Hollande, donc 2016, il y a eu cette interdiction des néonicotinoïdes, voilà, que des dérogations jusqu'en 2023 ont été accordées tout de même aux betteraviers, voilà. Depuis cette date, les alertes sur la toxicité de l'acétamipride pour la faune, la flore et les mammifères, êtres humains compris, se sont accumulées, même si des incertitudes persistent toujours. Le scientifique, quand il est dans une démarche scientifique, il doute lui-même. Voilà. Il dit, il y a des études, mais elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas suffisantes, il y a des doutes, voilà, mais on doit encore poursuivre les recherches. Voilà. D'où cette phrase. Les alertes sur la toxicité se sont accumulées, même si des incertitudes persistent toujours. Pourtant, tous ces arguments inquiétants, s'appuyant sur un corpus académique national et étranger, ne trouvent pas grâce aux yeux de qui ? Des défenseurs de l'insecticide, de cette molécule, majoritairement, rappelle Libération, à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique. Arnaud Rousseau, céréalier, lui dit justement d'y faire confiance à la science, puisque évidemment de chaque côté on dit faire confiance à la science. Lui se réfère à un seul organisme pour étayer sa position, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui évalue les risques des substances actives dans l'alimentation et rend un avis scientifique. De fait, dans son dernier avis sur l'acétamipride réalisé en 2024, l'agence a abaissé la dose journalière admissible, voilà, en raison des incertitudes concernant la neurotoxicité développementale. Précaution également motivée par l'analyse d'échantillons de fruits et légumes de plusieurs pays européens, mettant en évidence dans de rares cas des concentrations d'acétamipride élevées. Donc on voit que l'EFSA s'inquiète aussi. L'EFSA qui est pourtant cité par les céréaliers, voilà, s'est inquiété, l'a dit publiquement, voilà, mais elle n'a pas jugé pourtant nécessaire de bannir la molécule autorisée en Europe depuis 2005. Et donc, elle a pas, comme cette agence ne l'a pas interdit, et donc si elle n'a pas interdit, elle a autorisé, eh ben, les céréaliers disent c'est donc on peut l'utiliser. Chacun va chercher la source qui l'arrange, vous l'avez compris, hein. Tiens, la position de l'ANSES maintenant. Hein. L'ANSES, l'agence française chargée notamment de l'évaluation et de la réglementation des pesticides, les discours sont prudents. Interrogée par Libération au mois de mai, l'institution indiquait ne pas disposer de données récentes d'évaluation qu'elle aurait menées pour de tels produits. Elle ne peut donc se prononcer formellement. Frilosité qui exaspère la toxicologue Sylvie Bortoli, qu'on a citée au début de ce dossier. Favorable dans ce cas l'application du principe constitutionnel de précaution. Certains disent on a des doutes, on a des inquiétudes, mais on n'a pas de preuves formelles que la santé humaine, si on suit vraiment le cheminement logique extrêmement rigoureux d'une étude scientifique, de preuves formelles que la santé humaine, malgré ses soupçons, est mise en danger. Et donc, cette scientifique a dit, bah, dans ce cas-là, appliquons le principe de précaution. Elle dit, on peut laisser passer de nombreuses années avant de trancher et trouver de vrais liens de causalité irrévocables, parce que ces études, quand elles sont rigoureuses, elles demandent du temps. Mais aujourd'hui, les signaux préoccupants sont là, dit-elle. Tiens, on revient au débat parlementaire, ou plutôt à l'absence de débat parlementaire sur le sujet, ce qui est un petit peu problématique. En France, se reposer sur le dogme du rapport de l'EFSA reste problématique pour des voix fortes de la communauté scientifique et pour une partie de l'opinion, comme en témoigne le succès inédit de la pétition contre la loi du plomb qui compte aujourd'hui plus de 2 millions de signatures. À l'heure où on parle, je pense que c'est encore plus, sans doute. Merci beaucoup, Sulivage, pour ce soutien. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs sur ce point que l'Assemblée et le Sénat ont manqué à tous leurs devoirs. 2 100 000. Dit Libé, l'Assemblée et le Sénat ont manqué à tous leurs devoirs. Pendant les très rapides discussions sur la loi du plomb, avant le vote, aucun scientifique indépendant n'a été auditionné. Tout s'est fait tellement vite, on n'a pas eu le temps de faire les choses bien, regrette un député écologiste. La situation met mal à l'aise jusqu'au sommet de l'État. Le texte défendu par la droite et l'extrême droite, mais rejeté par la gauche, divise les députés de l'ancienne majorité de centre et de centre-droit, ce qu'on appelait les macronistes à une époque, alors que la transition agricole patine et que la France veut conserver sa première place de producteur de sucre européen. Emmanuel Macron joue l'équilibriste en cherchant à tout prix à concilier science et juste concurrence. Car derrière cette illustre quête de la science pour justifier le retour du néonicotinoïde se cachent en réalité des enjeux bien politiques, on avait compris. On est sur un combat entre la FNSEA et la coordination rurale, résume notre source au cœur du dossier. Les LR et le RN en ont fait un symbole de la surtransposition des normes environnementales en France et de la maltraitance faite aux agriculteurs dans un bras de fer contre l'exécutif afin de s'attirer les bonnes grâces de la FNSEA. Tout le monde l'a oublié, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est un faux écouter. Tout le monde l'a oublié, mais au début de l'examen du texte au Sénat, le gouvernement avait déposé un amendement de suppression de la réautorisation de l'insecticide dans le texte. Voilà. Finalement, ils ont lâché l'affaire. Merci beaucoup, Ninous95. C'est génial, j'adore ce passage, écoutez. privé de majorité et ayant choisi de s'allier à la droite, le gouvernement, qui a pourtant défendu l'interdiction de l'acétamipride devant la Commission européenne depuis ses débuts au pouvoir, donc on a un gouvernement qui a défendu l'interdiction de cet insecticide devant l'Europe depuis toujours, et ce même gouvernement se retrouve aujourd'hui à plaider pour sa réautorisation en raison de ses alliances politiques, tout en reconnaissant les doutes liés aux pesticides. Schizophrène, exactement mix. Et la fin, elle est encore plus ubuesque, mais elle est intéressante. Le gouvernement n'hésite pas à suggérer en off que cette loi pourrait être conforme à la Constitution au motif qu'elle ne sera peut-être pas appliquée ou que les actes administratifs pris pour son application seront peut-être annulés par le juge administratif. Au gouvernement, il y a des gens off qui disent « Vous inquiétez pas, cette loi ne va pas s'appliquer au final. » Voilà. C'est surréaliste. Comment ménager la chèvre et le chou au risque d'aller à la rencontre des alertes scientifiques pour s'éviter un revers politique ? Et oui, parce que le gouvernement, si le soutien de la droite saute, il saute aussi sans doute. Incroyable, hein ? Voilà. Pas mal ce dossier. Gros dossier. Pour résumer, à l'extrême, pour ceux qui veulent des résumés, mais les résumés c'est toujours dangereux, il semblerait quand même quand on lit tout ça, que même s'il n'y a pas d'études scientifiques qui affirment de façon catégorique, avec le nombre d'études nécessaires, le nombre de cas nécessaires, le recul sur le temps nécessaire, de façon catégorique, qu'il y a des dangers importants sur la santé humaine, de très nombreuses études scientifiques disent qu'il y a d'énormes questions, d'énormes doutes sur la dangerosité du produit. Voilà. Et donc les partisans, les opposants de cette loi disent à ce titre, ces études devraient suffire à nous alerter et de s'en priver, c'est le principe de précaution. Voilà, je vous ai résumé ça en une phrase, évidemment c'est plus compliqué que ça, sinon je vous aurais dit cette phrase depuis le début, mais en gros c'est ça. On est d'accord que c'est à peu près ce que nous dit ce dossier. Comment doit-on prendre les bruits de couloir de ce genre ? J'ai l'impression que les journalistes les sortent parfois de leur slip. J'aime bien l'expression d'Anarcho. Non, en vrai, c'est souvent des sources, des ministres ou des collaborateurs qui en gros essayent, comme je viens de le faire d'ailleurs, de résumer les choses, mais ne se prononcent pas officiellement. Et les journalistes s'en servent pour écrire leur papier, quoi. Voilà. Parfois, d'ailleurs, ça sert à désinformer, mais bon. Que souvent, enfin souvent, parfois, une information comme ça qu'un interlocuteur, un pouvoir quelconque, politique, économique, médiatique, peu importe, glisse comme ça en off à un journaliste, c'est une information qu'il ne veut pas assumer. Qu'il ne veut pas assumer en son nom. Voilà. Et donc il donne l'info en disant « je peux pas te le dire officiellement, in, mais off, je te raconte l'histoire ». Voilà. Et parfois c'est la vraie histoire, et parfois la personne profite de ce off pour raconter une autre histoire, sachant qu'il ne va pas être cité. Voilà. Voilà, moi, j'ai un exemple concret sur un sujet que je connais très très bien récemment, où clairement ça a été la manip. Salut Red Impact, c'est pas grave, tu es avec nous. Oui, comme le dit Christophe, c'est ça, le danger n'est pas formellement démontré, mais le risque est élevé, exactement. Pourtant, l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, dont on a parlé, et Derizor nous en parle, qui est une des autorités scientifiques et qui, après des méta-analyses, regroupement d'études, a considéré qu'aux doses utilisées, c'était sûr, qui nous ment. Alors, ce que nous dit Libération, c'est que l'EFSA, d'après les opposants à cette loi, l'EFSA n'est pas allé chercher les bonnes études et a privilégié une étude plutôt que d'autres. Et l'EFSA n'est pas, est-ce que dit Libération, enfin ce que rapporte Libération, c'est que selon les opposants, l'EFSA n'est pas une autorité scientifique, n'est pas composée de scientifiques, mais est une autorité qui va aller chercher justement des sources scientifiques et n'aurait pas cherché, selon les opposants, les bonnes sources scientifiques. Voilà. Bon, merci les amis. La loi du plomb, on en reparle sans doute dans les prochains jours. De quoi je vous parle maintenant? Quelle heure il est? Faut que je vous abandonne à 12h30. Ça va, bien sûr, un bon timing. Merci d'être aussi nombreux ce matin, ça fait plaisir. Et on sera là tous les matins, c'est l'engagement de cette chaîne, hein, tous les matins, lundi au vendredi. Lundi, revue de presse. Mardi, revue de presse. Mercredi, revue de presse. Jeudi, revue de presse. Vendredi, revue de presse. Ça a été le cas tout l'été. Ce sera tout le mois de juillet. Ce sera le cas tout le mois d'août, sauf à la dernière semaine d'août où j'ai une semaine de questions pour un champion de tournage à partir du 19, je crois. Mais des semaines comme ça, j'en aurai deux par an désormais seulement. Et donc, mon engagement ici, c'est d'être là tous les matins, voilà, tous les mois, tout le temps. Voilà. Et d'essayer de continuer à vous faire du gaming, bien sûr. Voilà, pour que ce soit vraiment un rendez-vous d'info. Sujet suivant. Sujet suivant, je vous emmène où ça? Ah, le truc de l'humanité sur les titres de séjour. Oh, c'est passionnant ça. Alors voilà, ça c'est une actualité que je suis depuis quelques temps. On va aller voir l'UMA. Voilà, et je n'étais pas content des articles, des dossiers que je trouvais. Je ne trouvais pas ça très très clair. Je me suis dit, cette histoire de traitement numérique des papiers pour les étrangers en France, qui bug, qui ne marche pas, qui a plein de conséquences sur la vie quotidienne de ces gens, attendons le bon article, le bon dossier. Et là, pour le coup, j'ai trouvé le bon dossier. L'humanité est extrêmement claire sur le sujet. J'ai tout compris. Let's go. L'humanité, titre de séjour. Le traquenard du tout numérique. La plateforme ANEF, censée moderniser la gestion des papiers des résidents étrangers, accumule les dysfonctionnements, perte d'emploi, perte de droits sociaux. Les effets sont dramatiques. Oui, plus que deux semaines de tournage par an pour Question pour un champion, puisque ils ont décidé de nous mettre plus que le week-end. Voilà, avant peut-être de nous arrêter totalement un jour. Titre de séjour, la galère numérique des étrangers, c'est hyper intéressant. Voilà, j'ai plein de témoignages dans le chat depuis tout à l'heure. En voici un autre. Roquito, ma femme en attente depuis septembre 2024. Nous sommes mariés, nous avons un logement, elle avait un CDI, elle l'a perdu, son travail, parce que ça fait 10 mois que nous attendons ne serait-ce qu'une réponse. Ma femme, dit Goya, est institutrice depuis 6 ans en France. Chaque année, le renouvellement de son titre de séjour est un stress quotidien. Mois de retard, peur de perte d'emploi, c'est catastrophique. Mise en service en 2020. La plateforme ANEF, censée moderniser la gestion des titres de séjour, accumule les dysfonctionnements. Perte d'emploi, de prestations sociales, les conséquences pour, par exemple, ceux que l'humanité a rencontrés, l'OMNAT, Darcylène, Yvan, Brice et tant d'autres, sont dramatiques. Quelqu'un me dit « Bonjour Marc Lesguy, je dis bonjour, je valide la blague. » Les 11 dossiers. Hein. Dès l'entrée, les photos s'étalent sur le mur qui donne sur le salon à côté d'un grand mandala peint par Carole, des morceaux de vie épinglés, des fils, vacances, au pays, mariage, naissance de Camille. Tu veux boire un thé? Demande l'OMNAT. Son sourire masque à peine des traits tirés, signe de longue nuit passée à cogiter. La bonne nouvelle tant attendue vient tout juste de tomber ce matin alors qu'il ouvrait la page du site de l'administration numérique pour les étrangers en France, donc l'ANEF, un rituel quotidien. « Regarde, dit-il au journaliste de l'Humanité, en montrant le bout de papier imprimé, une attestation de décision favorable pour une demande de renouvellement de son titre de séjour. En clair, un précieux document qui lui rouvre ses droits en attendant sa carte de séjour valable 2 ans. Voilà 2 mois que ce musicien indien, marié depuis 6 ans à Carole, avec qui il a eu une petite Camille qui a 4 ans, était sans papier. Donc 2 mois qu'il était sans papier à cause de uniquement de retard. » Pas parce que sa situation faisait qu'il devait pas avoir de papier, juste parce qu'il avait du... ça marchait pas, quoi. Son dernier titre de séjour, vie privée et familiale, d'une durée de 2 ans, avait expiré en octobre. Il avait été suivi d'un récépissé de 3 mois, puis d'un autre, puis plus rien. L'OMNAT, donc le musicien indien, se marre, amer, depuis 8 ans qu'il vit en France. Il ne compte plus les récépissés, les attestations de prolongation qu'il a accumulées. Il était déjà resté 3 mois sans papier, faute d'avoir reçu à temps un énième récépissé à la préfecture en attendant un titre de séjour. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites arrêter et que vous n'avez pas de papier? Hein? Qu'est-ce qui se passe quand votre employeur vous demande les papiers pour votre contrat de travail? Qu'est-ce qui se passe quand les services de sécurité sociale ou autres vous demandent vos papiers pour renouveler vos droits? ce monsieur témoigne, j'ai perdu plusieurs contrats de travail en France et à l'étranger, je n'ai pas pu aller voir ma mère, très malade en Inde, hein, fait chier tout ça, dit-il. Sa demande de résidence de 10 ans lui a été refusée à cause de son français, pas au niveau, selon les critères de plus en plus sévères du ministère de l'Intérieur. Il faut savoir l'écrire, soupire Carole, en Inde, c'est pas le même alphabet, c'est dur. Les 600 heures de français imposées par l'Office de l'immigration pour la délivration de son premier visa lui ont permis d'obtenir la certification de niveau A1, mais c'est le A2 qui est demandé pour une résidence de 10 ans, et dès janvier 2026, ce sera un autre niveau, le B1, encore plus exigeant. Mais comment suivre des cours de français quand on travaille, à moins de prendre des cours particuliers hors de prix. Carole, donc son épouse, raconte le stress, les tensions dans le couple provoquées par une administration défaillante, complètement dématérialisée, aux démarches complexes et répétitives. Merci en tout cas. Parfois, on te demande certains documents alors que tu les as déjà envoyés 3 ou 4 fois. On te lance un ultimatum, dernière relance avant clôture du dossier. Tu n'as personne en préfecture, aucun interlocuteur pour expliquer ta situation. Plusieurs fois en panique, ils ont dû faire appel au maire de leur commune du Val-d'Oise afin qu'il intervienne près de la préfecture. Voilà. Carole regarde son mari. Franchement, je ne sais pas comment il fait. J'aurais lâché l'affaire depuis longtemps. Déployé depuis 2020, d'abord pour les étudiants, pour les pauvres, puis en 2023 pour l'ensemble des étrangers, la dématérialisation totale des demandes de titres de séjour via cette plateforme ANEF devait faciliter leur accès aux droits. C'était les promesses du ministère de l'Intérieur. Le choc de simplification, dixit la place Beauvau, s'est traduit par un choc tout court, violent, impossibilité d'ajouter des pièces jointes. C'est surréaliste. De modifier ses coordonnées. C'est une blague. Ok. Faut pas déménager, hein. Ou son mot de passe, de joindre la préfecture, retard chronique pour l'obtention du titre de séjour qui se transforme en mieux en réception de récépissé à répétition. En décembre 2024, la défenseure des droits, Claire Hédon, dénonçait les atteintes massives aux droits provoquées par cette dématérialisation. Entre 2020 et 2024, l'autorité administrative indépendante, donc le défenseur des droits, a enregistré une augmentation de 400% du nombre de réclamations en matière de droits des étrangers. Dans l'immense majorité, ce sont des titres de séjour et de leur renouvellement qui plongent les étrangers dans une situation dramatique. Explique l'institution qui note que parmi les personnes touchées, un nombre croissant correspond à des étrangers en situation régulière, parfois depuis de très longues années, et pour certains titulaires de titres de séjour pérennes comme des cartes de résident de 10 ans. Darcylène le sait trop bien, elle a quitté le Brésil pour Nice en 2019, d'abord avec un visa étudiant. Depuis 6 ans, cette mère de 3 enfants travaille en EHPAD comme assistante de vie. Mon titre de séjour expire demain, souffle-t-elle. Mon employeur m'a prévenu, il ne pourra pas me garder. Ok, on a une dame brésilienne qui vit depuis 6 ans en France. Voilà, elle travaille en EHPAD, vous savez, les EHPAD qui ont énormément de mal à trouver des salariés. Voilà. Elle va, à partir de demain, son titre de séjour expire. Son employeur ne va pas la garder. La CAF m'a déjà retiré mes aides. Voilà. Comment je vais faire pour payer mon loyer de 950 euros ? Voilà. Toujours pas de réponse. Le regroupement familial avec son mari brésilien lui a été refusé. J'essaie de rester calme pour ne pas transmettre mon stress à mes enfants, mais je me sens pas bien, dit-elle. Avant de lâcher, le gouvernement veut dégager les étrangers. Moi, je tiens bon grâce à mes enfants, mais je me dis que tout ça, c'est calculé. Stéphane Maugendre abonde, il n'y a aucune volonté de résoudre le problème que nous évoquons ce matin. Même nous, spécialistes, nous avons du mal, c'est un avocat, à nous y retrouver dans les procédures. Nous savons que les préfectures ont classé sans suite un nombre incalculable de dossiers. Certains étrangers peuvent ainsi se retrouver avec une fameuse OQTF. Hein ? Obligation de quitter le territoire, cela va avoir l'effet escompté par le gouvernement, ils finiront par dire on s'en va. Notre histoire. Sabrina, ok, son mari s'appelle Yvan, il est cubain. Ils sont arrivés en France en 2023 après avoir vécu 7 ans à La Havane et mis au monde leur fille Ivana. Tout a plutôt bien commencé. Elle trouve rapidement un boulot dans le tourisme. Lui décroche une formation d'alternance dans la climatisation grâce à Pôle emploi jusqu'au jour où ils ont le malheur de déménager dans un autre département de la région parisienne. Il fallait pas. Le dossier d'Yvan n'a pas suivi, raconte Sabrina, il n'est toujours pas traité, la plateforme indique défaut de service. En attendant, Yvan accumule les récépissés, s'est déjà retrouvé sans papier, son employeur l'a pris 2 fois en CDD, mais sans titre de séjour, n'a pas pu le garder.
C'est magique, hein.
Merci Mathis. Sabrina ne décolère pas. Yvan aurait pu avoir un CDI, son boss était prêt à l'embaucher. Sans Ivana, je pense que nous aurions quitté la France. Brice, enfin, lui, on est à son 8e récépissé. 2017, il part de la Côte d'Ivoire avec un visa d'affaires. Toute la famille réside en France depuis longtemps. Toute sa famille réside en France depuis longtemps. Tous ont eu la naturalisation, donc sa famille est française. Il décide de rester avec eux. Père d'une petite fille de 3 ans, il fait une demande de régularisation en tant que parent d'enfants français. Entre-temps, il se forme à l'informatique, il trouve un travail bien payé. Son employeur intervient plusieurs fois en préfecture, mais avec des récépissés de 3 mois, il est obligé de me licencier. Aujourd'hui, à 38 ans, Brice vit chez ses parents, sans travail, sans aucun droit. Il ne peut prétendre à un logement à HLM, ni même au chômage. J'ai été bénévole dans un tas d'associations. Il n'y a pas plus intégré que moi, s'exclame celui qui avoue avoir pensé au suicide. Je n'en peux plus de cette précarité. Il semble bien que toute cette situation, ces vies malmenées, ne troublent pas le ministère de l'Intérieur. Merci Samuel Gassman pour le 11e mois. Au contraire, à partir de janvier 2026, l'obtention des titres de séjour sera soumise à une plus grande maîtrise de la langue française via un examen. La plupart de ces cours de français, hein, avant l'examen, seront dématérialisés. Incroyable. Merci l'humanité, parce que ça faisait plusieurs mois que j'attendais d'avoir un article, un dossier à peu près clair sur le sujet. Ben, je l'ai trouvé. C'est assez intéressant. Est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce que c'est un problème de volonté politique? Mais en tout cas, force aux gens qui vivent ça, quoi. Je vais paraître naïf, demande Asdar, mais est-ce que c'est de la mauvaise intention ou de la bêtise, de l'amateurisme? On sait que c'est expressément fait pour décourager les gens. Bah, j'avoue qu'on ne sait pas trop, quoi. Un peu à la marge de ce sujet, mais pour témoigner de ses difficultés administratives, me dit Sugar Frog, ma mère britannique, qui a plus de 30 ans de mariage en France, a pourtant bien galéré dans la multitude des démarches pour obtenir cette double nationalité qui est la sienne aujourd'hui. Je vous lis. Je vous lis. J'ai un ami dans la même situation, me dit Ekerna, extrêmement bien intégré, et ce fut un choc quand il a dû quitter la France ce mois-ci. Merci Veux51. Merci pour ton 6e mois et merci pour ton gentil message. Un collègue ingénieur, me dit Nether, qui a pris un OQTF est parti, laissant sa fille en France. Je suis professeur en CFA sur Paris, me dit Oblivion 7. Une élève en BTS ne pouvait pas trouver de patron d'alternance car pas de renouvellement du titre. Pas possible de s'inscrire à l'école car pas de patron, impossible de renouveler le titre car pas d'école. Let's go. À mon travail, me dit Teferi, on a dû arrêter 2 contrats car les papiers n'étaient plus en règle. Nous sommes tout de même allés à la préfecture, ils n'ont rien voulu savoir. Ok. Bon, vous êtes énormément. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un chat qui raconte des histoires concrètes, quoi. Qui confirme les informations ici rapportées par l'humanité, quoi. Merci d'être aussi nombreux. Merci. Merci de la force, du coup. l'information 2.0. Rallo. Ce n'est pas qu'un problème de bug informatique, même s'il y en a plein, c'est un problème d'absence de réponse des préfectures, même lorsque le site fonctionne normalement. Dans ces deux cas, il y a des recours qui existent, il ne faut pas hésiter à aller voir les associations en droit des étrangers ou des avocats dans le domaine. Dans le dossier du mail, il y avait un avocat spécialisé qui disait que lui-même était un peu perdu, quoi. Voilà. Jamy Forever me dit que sur les chantiers de BTP, ça arrive très régulièrement. Jamy qui est ingénieur dans le BTP. Dans notre boîte, on a dû fermer les yeux sur un papier expiré pour qu'il ne perde pas son emploi. 4 mois d'attente, me dit Serniel, avant que ce soit régularisé, quoi. Tant de compétences qui s'en vont à cause de ça, regrette Claire Bibou. Dans l'aide à la personne, ça arrive souvent aussi, me dit MZH. C'est fou. Bon, bah merci. Très heureux d'avoir liste de dossier avec vous ce matin. Est-ce qu'il est midi et demi? Non, ça va. Tant de vie malmenée, surtout, me dit Zoram. Ma femme est passée par ce parcours d'intégration, c'était une feature. J'ai accompagné ma femme à un rendez-vous, c'était lunaire, me dit MHZ. Alors, est-ce qu'il reste un papier? Je crois que oui. l'humanité, 9. On finit timing parfait. On finit sur du un peu plus léger. C'est bien un petit peu de se changer les idées. J'ai une petite info jeu vidéo, console pour finir. Parlons un peu de gaming. Là, oui, parce que bon, ça joue pas beaucoup en ce moment ici, hein, sur cette chaîne. Hein. On s'est mis à fond sur l'actu, mais ça joue pas beaucoup. Hein. Le soir, je suis crevé. Je sais pas ce que j'ai. Hein. Je me lève trop tôt, je sais pas, je fais trop de sport. Le soir, je dors. C'est pas possible ça. Il est où le double stream? Il est où le triple stream? Hein? Cet après-midi, là, je suis à la maison, je reçois quelqu'un qui doit intervenir à la maison. Il y a Joe qui vient à la maison, on va bosser un petit peu. Voilà. Et puis bon, les enfants sont encore avec moi là, aujourd'hui et demain, donc du coup, je profite d'eux. On va essayer mercredi de revenir un petit peu sur le gaming, en plus de la revue de presse. Voilà. Et donc, on finit avec du gaming, justement, c'est dans Les Échos, qui est un journal économique, bien sûr, mais qui parle beaucoup assez régulièrement de jeux vidéo. À une époque, on m'engueulait parce que je faisais trop de jeux vidéo et pas assez d'actualité. Vous allez voir que bientôt, ça va être l'inverse. On va m'engueuler parce que je fais trop d'actu et pas assez de jeux vidéo. Lancement historique pour la Switch 2, un papier dans Les Échos de ce lundi 4 août 2025. Le groupe japonais Nintendo a vendu plus de 6 millions d'exemplaires, c'est énorme, de sa nouvelle console en l'espace seulement de 7 semaines. C'est du jamais vu dans le jeu vidéo. Après avoir réalisé des ventes records il y a 8 ans lors de la sortie de sa première console hybride, la Switch, Nintendo vient de réaliser le meilleur lancement de toute l'histoire de cette industrie avec sa Switch 2. Lors de ses résultats trimestriels vendredi, le groupe a révélé avoir vendu dans les 7 semaines qui ont suivi la sortie de l'appareil, début juin, plus de 6 millions de consoles dans le monde. Ouais. Soit une performance très supérieure au précédent lancement ou aux ventes générées sur des périodes comparables par les rivaux Sony, PlayStation ou Microsoft Xbox. Putain. Pardon. Jamais une console s'était vendue autant, malgré le prix de fou, en aussi peu de temps. Voilà. Je vois que ça vous surprend, hein. Nintendo affirme que ses volumes auraient pu être même bien supérieurs. Tiens, il y a Joe qui répond. Qui dit mon Joe? Colis envoyé. Les amis, vous savez, il y a deux casques VR là, hein, que j'ai fait gagner à deux membres de la communauté, deux casques VR de fou que j'ai fait gagner il y a des mois à deux membres de la communauté. Voilà, Joe m'a dit que je vais m'en occuper parce que ça va jamais partir cette histoire. Donc je lui ai filé les adresses des deux gagnants là. Et let's go, c'est parti. Je sais pas s'ils sont dans le chat, les deux personnes qui attendent leur casque VR là. C'est parti à la poste là. Let's go! C'est des casques qui coûtaient une blindasse. Voilà. Donc, Nintendo affirme que ses volumes auraient pu être bien supérieurs, mais n'avait pas pu, faute de stock, répondre aux commandes. Porté par ses ventes historiques et une forte demande pour le nouveau jeu Mario Kart World, on y a joué un petit peu vite ici, proposé en pack et la nouvelle console, Nintendo a vu son revenu trimestriel progresser de 132%. Ses profits opérationnels ont gagné 4% sur un an. Malgré ses bons résultats, le groupe de Kyoto, réputé pour ses projections toujours très prudentes, n'a pas modifié ses objectifs pour l'ensemble de son année fiscale, blablabla, ça c'est les échos. Hein. Il estime que, qu'il va écouler sur un an 15 millions de Switch 2. Plus 4,5 millions de Switch 1. Plus 150 millions de jeux sur ces deux plateformes.
Ah ouais !
La direction anticipe qu'elle atteindra, si elle tient ses niveaux de vente, un revenu annuel de 1900 milliards de yens, 11 milliards d'euros, et un profit opérationnel de 1,9 milliard d'euros. Incroyable. Les analystes, alors eux ils sont prudents, les analystes sont bien plus enthousiastes. La plupart estiment que la Switch 2 pourrait se vendre dès cette année à près de 20 millions d'unités. Les modos, si vous lancez un sondage, savoir qui a acheté la Switch 2 dans ce chat là, n'hésitez pas. Type, qui a acheté la Switch 2 oui. Non. Je ne sais pas. Hein ? N'hésitez pas. 20 millions d'unités. Et que les profits vont croître plus vite que prévu. Il rappelle que si les consoliers acceptent généralement de vendre à perte leur machine et d'être rentable que sur les ventes des jeux, Nintendo a lui réussi à dégager un bénéfice sur chaque unité de son nouvel appareil, qui est proposé à un prix bien plus élevé que son précédent modèle. C'est combien d'ailleurs ? Je ne sais pas, oui, il y a toujours des gens qui sont un peu fatigués de la tête, ouais. Qui a acheté la Switch 2 ? C'est parti pour le sondage. Combien ça vaut une Switch 2 ? Vous avez le sondage qui est parti, les amis. Ça vaut combien une Switch ? 500 balles ? 475 balles ? 470 balles ? 500 balles ? D'accord, ok. Vous avez un analyste particulièrement optimiste qui estime que Nintendo va sans doute écouler entre 66 millions et 69 millions de son nouvel engin. Ah, on appelle ça comme ça aussi. Entre 2025 et 2028, en 3 ans. Il y a toujours des gens qui ne savent pas. Faut pas jeter la pierre. Hein. Vous avez un 16% du chat qui a acheté la console, la Switch 2, là. C'est beaucoup, déjà. Hein. C'est beaucoup, hein, 16%. 16% de 5000. C'est énorme, hein? Ça en fait des sous. Merci, Lubano. Merci pour le 8e mois. Jeter la pierre, oui, mais pas sur Chabrier. Joli. Je l'ai. On n'est pas 5000 à voter. Sondage sur 600. Eh, certains, vous êtes à deux doigts de m'expliquer comment marche un sondage, non ? Allez, on les gars, là. Vous n'êtes pas en train d'essayer de m'expliquer comment marche un sondage, non ? Vous imaginez ? Il y a combien de personnes qui ont voté, là ? 600, 700, 750 à peu près. 750 sur 5000. Vous imaginez si les sondages en France portaient sur cette proportion des Français ? Vous imaginez le nombre de personnes qu'il faudrait sonder à chaque fois ? Hein, vous êtes à deux doigts de comme le dit Rafou, vous êtes à deux doigts de découvrir la loi des grands nombres. Merci pour l'analyse. Voilà. Mais, donc on est à non 83%, 14% oui, je ne sais pas, 2%. Et je voudrais saluer les 18 personnes dans le chat qui ne savent pas s'ils ont acheté une Switch 2 ou pas. Voilà. Ça se trouve, il y a des gars, ils ont acheté une Switch. Une Switch 2. 500 balles, mais qui fait tourner que des jeux des années 80. Voilà, en noir et blanc, avec des gros pixels. Voilà. Et c'est la Switch. Voilà, ils ont voulu l'avoir avant tout le monde. Elle était disponible 15 jours avant la Switch 2. Ils l'ont payé le même prix. Voilà. Et c'est la Switch. Mais elle est moins bien. C'est peut-être des grands-parents qui l'ont acheté pour leurs petits-enfants. Non, mais il y a sûrement une raison. Moi, je crois qu'il y a une vraie raison derrière ces 18 qui ont dit « je ne sais pas ». Ou alors, c'est pour que madame ne sache pas. Ou alors, ils prévoient de l'acheter, mais ils ne sont pas encore sûrs. Eh ouais! Bon, sinon, il y a un article aussi sur les jeux très attendus, regardez. Enfin, bon, on est sur les échos, donc on est toujours sur un aspect économique et financier. Vous avez vu que l'article qu'on vient de lire, il est gavé de chiffres, de dollars, de yens, etc. C'est normal, c'est les échos, c'est un journal économique. Et à propos d'économie, merci Gogo pour ton 22e mois d'abonnement. Voilà. Et on a aussi un article là sur les futurs hits du jeu vidéo vus par la bourse. Pas les, enfin, la bourse, la place boursière, quoi. Sur les marchés, les groupes derrière les franchises à succès dont les nouveaux titres ne sont pas attendus avant plusieurs mois ou plusieurs années vivent pourtant une période faste. Voilà. En fait, les titres de ces entreprises montent fort dans l'attente de succès futurs. Quel est le point commun entre Electronic Arts, CD Projekt et Take-Two Interactive ? Ces trois poids lourds du jeu vidéo connaissent une embellie sur les marchés alors que l'industrie vidéoludique vit des heures délicates pourtant. Autre dénominateur commun, tous sont dans les tuyaux un ou plusieurs blockbusters qui nourrissent l'optimisme et attisent l'intérêt des investisseurs. GTA 6, par exemple, pourrait devenir le jeu rencontrant le plus de succès des 9 générations de consoles, disent certains analystes. Certains tablent sur 65 millions de jeux vendus en 2 années d'exploitation quand le jeu sera sorti. 65 millions de jeux. Voilà. Du coup, le titre de l'entreprise Take-Two Interactive se porte très bien. C'est quoi le nouveau jeu de CD Projekt ? Me pose la même question Stéphane Gocha. 65 millions, ouais. La renaissance de CD Projekt. Fin 2020, CD Projekt se prenait un gadin mémorable sur les marchés après le lancement raté de son blockbuster Cyberpunk 2077, vous vous souvenez ? Ah, c'est Witcher 4 ? Ah ! Qui avait porté son cours sur les sims boursières les mois précédents, donc le jeu était sorti trop tôt, il était gavé de bugs, vous vous rappelez. Depuis, le groupe s'est démené pour rattraper ses bourdes et corriger les nombreux bugs du jeu, le jeu c'est une masterclass maintenant, au point de franchir le cap des 30 millions de ventes. 30 millions de ventes, nom de Dieu, pour Cyberpunk, hein. C'est énorme. Mais c'est surtout le futur se profilant qui vaut au cours du groupe polonais d'être remonté de 58% sur l'année écoulée. 6 milliards d'euros de capitalisation boursière, c'est énorme. Refaisant de CD Projekt le numéro 1 européen du secteur devant Embracer et Ubisoft. Il y a quelques semaines, la firme a annoncé que Cyberpunk 2 était entré dans une phase de pré-production et le deuxième trailer du nouvel opus de son autre opus, de son autre méga franchise de Witcher a reçu un très bon accueil. Mais dis donc les gars, on n'a pas vu ici le trailer de The Witcher 2 ? Si ? Witcher 4, pardon. On l'a vu ? Ah si, on l'a vu ? On l'a déjà vu ? Ah, on l'a déjà vu, merde. Putain, le vieux schnock. C'est la commu qui dit, mais si, on l'a vu. Vieux schnock, va. Ok. Il était bien ? Okay. Sortie 2027. Electronic Arts en pleine remontada. Il n'y a pas que FIFA, rebaptisé EA Sports FC en 2023 dans la vie d'EA, et c'est heureux pour le cours de bourse du groupe américain. Ça parle beaucoup de bourse dans les échos. Hein. Ils sont très branchés bourse. Merci Okin Léo pour ton message, ça fait plaisir. Qui avait parti en début d'année des performances en demi-teinte dans son dernier né de sa franchise vache à lait EA Sports FC 2025. Depuis, l'action a grimpé de plus de 30%. Quoi ? La raison de ce regain boursier, un correctif réussi d'EA Sports FC 2025 qui a apaisé Wall Street. Voilà, EA qui écoute la communauté et stonk dessus, GG, me dit Jim. Ah ouais, ils ont fait un correctif ? Et il est bien ? Tu avais été hypé que le jeu soit centré sur Siri. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Ouais, et puis il y a Battlefield 6, ouais, t'as raison. Surtout, EA possède dans sa manche l'atout Battlefield 6, un jeu de tir très attendu que le groupe a continué de dévoiler cette semaine aux joueurs via notamment une présentation du mode multijoueur. Le titre aurait coûté plus de 400 millions de dollars. Pop, 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 pop. C'est quasiment le budget de cette chaîne. En frais de développement, croit savoir un site qui avance, qui vise les 100 millions de joueurs. Battlefield est susceptible d'être le principal moteur de croissance pour l'activité d'EA cette année. Pas mal. Battlefield, peut-être que j'y jouerai. Le problème, c'est qu'il faut que je joue à Subnautica, il faut que je joue à comment il s'appelle le jeu avec le facteur, là, le mec qui porte des colis, là. Qui est très bien, là. Le truc qui se passe à la poste, là. Le mec qui a une sacoche, là. Death Stranding, faut qu'on joue à Valo, faut qu'on reprenne l'arc Call of, Faut que quoi encore? Qu'est-ce qu'il faut que je que, hein? Quoi encore? Faut que je reprenne GTA mode histoire, faut que je refasse du GTA RP. Elden Ring, peut-être un petit coup d'Elden Ring. PUBG, on adore. Far Cry 3, on en a parlé. Oui. Clair Obscur. Ça, les revues de presse, tous ces jeux. Ça me plaît à relancer saison 3, retrouver des invités, trouver des sponsors. Mes projets cachés dont je peux pas vous parler là, machin, tout. Rise of Empire. Oh, je vais jamais y arriver. Ma carrière de danseur pro. Ma carrière de chanteur pro. Ma carrière de batteur pro. Ma carrière de papa pro. Ma carrière d'époux pro. Ma carrière de coureur à pied pro. Ma carrière de mannequin. J'ai une carrière de mannequin qui est en développement là. Depuis mon nouveau look capillaire. Hein. Pff, on va jamais y arriver. Ma carrière de Pascal Pro aussi, oui, bien sûr. Mon compte OnlyFans. La présidentielle. Le The Event et The Nation Goal. On va jamais y arriver. On va. Moi, je vous le dis. Hein. On va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. Vous sentez? Vous sentez? Ça sent le burn-out. Hein. On va jamais y arriver. Embauche 5 stagiaires. Non. Alors, qui est en live? On va faire un petit raid. Le raid, c'est important. Et après, je file à la maison retrouver les enfants et Joe. Joe n'est pas un de mes enfants. C'est mon poteau. Alors. Ouais. Ouais, pas mal ça. Ok. Qui est en live? Ouais, j'ai bien envie là. Ouais. Ouais, j'ai une idée là. Je vois une image qui me plaît là. Les amis, j'ai une image qui me plaît. Les amis, je vois qui? Je vois Presséa de dos. De dos parce qu'on la voit pas parce qu'il est en train de parler à quelqu'un. Presséa, qui sera au The Event, qui est en train de parler à un beau gosse là au fond, que je reconnais. Et je vois Moment dans la pièce là. Et un chien qui a l'air adorable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, c'est parti, on va voir Presséa. Il y a Presséa, il y a Moment, il y a un chien. C'est forcément un stream de qualité. Let's go. Presséa. Je lance le raid. Ça charge. Voilà. Ça parle de The Event. Plus découverte du pack nature. Enchanté des Sims 4. Je sais pas de quoi ça parle. Voilà. Il y a un beau gosse, c'est Moment. Non, c'est Moment le beau gosse. Enfin. Les amis, pas cet après-midi, je bosse. Ce soir, je suis pas sûr parce que je préfère passer du temps avec les enfants en ce moment. Il y aura une revue de presse demain. À chaque fois, je dis, je lancerai peut-être un Valo ce soir, mais je suis crevé après. Bon, on verra. En tout cas, merci pour ce matin, c'était top. Merci pour tous les soutiens, merci pour tous les subs, merci pour votre accompagnement, merci pour la participation au débat sur l'actualité. À demain matin, on va voir Presséa, Moment le beau gosse et le chien. Il y a un chien. À très vite. Merci encore.
Enfin, j'avais joué aux Sims déjà. Mais donc en vrai, ça va être un peu une première. Merci Alan Dorn. Merci infiniment pour les subs. C'est la Trinité des H qui vient de donner les subs. Merci beaucoup Alan Dorn pour les 50 subs. C'est incroyable, merci. Merci beaucoup, beaucoup. Merci pour tous ces subs gifts. Mais ouais, et puis Tale of Shire, il y a un jeu sur les Hobbits. Un peu en mode Animal Crossing Hobbits. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée chill, repos avec Zé. Ah bah pour le coup mes neveux et nièces ils ont adoré Zephyr. Mais ouais c'était trop bien. Bibi. Bah ouais. Ah bah ça il a grandi un petit peu trop vite le petit bout. J'ai un raid. Attends quoi, il y a un raid? Ah mince, il y a un raid, Samuel Etienne. Pardon, on parlait de moi.